Et tu sais ce que c'est que le talent? C'est rigolo. Le talent, c'est une monnaie à l'origine.
Et, ah oui, c'est juste.
Et c'est une monnaie, en fait. Et le talent, je dis souvent, aux étudiants, vous avez des qualités. Mais le talent, c'est le fait de les faire fructifier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Comme vous le savez, cette année, Sens Créatif est sponsorisé par Adobe et j'en suis très heureux. En effet, je ne pouvais rêver meilleure marque pour sponsoriser ce podcast. C'est pas compliqué, je voulais collaborer avec Adobe et personne d'autre. C'était comme une évidence. Et ça l'était parce que non seulement j'utilisais leurs outils depuis toujours, mais aussi parce que dès mon arrivée sur Paris en 2013, quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur, mon histoire s'est rapidement liée à cette marque. Et oui, je me souviens encore de cette première conférence des Meet the Talent, qui s'appelait encore à l'époque Behance Portfolio Review, une soirée qui avait été organisée par Adobe et le laptop, et au cours de laquelle j'avais eu le plaisir d'y présenter mon travail. Je me souviens qu'il y avait grave du beau monde, et moi, tout débutant, j'avais également eu l'occasion d'y présenter mon travail. La tonalité était bienveillante, les retours étaient encourageants, et de cette présentation ont découlé de nombreuses autres opportunités. Et vous savez pourquoi ? Parce que Adobe s'est aussi donné pour mission de rapprocher la communauté des créatifs. Et ça, vous vous en doutez, ça me parle. Parce qu'ils y mettent les moyens, voyez-vous. Que ce soit à l'échelle mondiale comme la conférence Max, au niveau local avec des initiatives comme les Meet the Talent à Paris, depuis votre canapé en suivant les émissions sur la chaîne Behance d'Adobe ou en partageant votre travail sur cette même plateforme Behance, Adobe envoie un message clair. Creatives, we're here for you. Ouais, ouais, vous le savez, ça fait toujours plus cool en anglais. Adobe, we're here for creators. Oh yeah. Alors si j'étais vous, j'irais jeter un petit coup d'œil sur adobe.com afin d'aller explorer les diverses ressources qui sont à votre disposition. Ceci étant dit, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous présenter ma discussion avec Julia Bernard, une graphiste, web designer et directrice artistique de talent rencontrée à Bordeaux l'été dernier, et avec qui j'ai tout de suite connecté. Passionnée, engagée, enthousiaste et entreprenante, spécialisée dans l'identité de marque et dans la conception de sites web, Julia a fondé son propre atelier de création graphique et interactif en 2010. Un atelier qui se distingue par une activité à multiples facettes et par les réponses sur mesure qu'elle apporte à ses clients. Elle travaille majoritairement dans les domaines de l'institutionnel, du culturel et du luxe. Elle a notamment travaillé pour de grands noms comme Hermès, la Fondation L'Oréal, la compagnie Johann Bourgeois ou encore le musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg. Mais ce qui m'avait encore plus interpellé, c'était son approche méthodique et holistique de la vie. Et à peine rencontré, voilà que nous étions déjà en train de discuter parentalité, crise existentielle, psychologie et parcours professionnel. Car je ne le savais pas à la base, mais Julia est également coach. Et le potentiel inexploré des gens, ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse. Dans cette interview où nous plongeons dans les profondeurs de l'âme, nous discutons de très nombreux sujets comme notre besoin de structure et de sécurité, l'importance du premier client ou comment conscientiser nos process de travail, mais aussi de la construction de l'ego et de la fameuse crise du middle life, en quoi la parentalité nous a métamorphosés et remis en question, le burn-out, pourquoi elle a quitté Paris pour s'installer à Bordeaux, pour ensuite terminer sous l'aspect plus orienté coaching avec des questions comme comment aider les autres sans s'imposer, comment devenir notre propre meilleur ami et identifier nos propres croyances limitantes, d'autres joyeusetés comme comment accepter la courbe du deuil, et enfin, comment Julia applique tout particulièrement ses méthodes de coaching avec ses propres clients. Si vous appréciez tout particulièrement l'aspect existentiel de ce podcast, mon petit doigt me dit que cet épisode va vous plaire. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Julia Bernard. Bonne écoute. Tu sais, je vais éditer. Hein, si l'on dit des conneries, je le raccorderai au moment donné. Où
tu veux dire si je dis zizi ?
Voilà, exactement.
On peut le couper.
Voilà, on peut couper. Est-ce que tu as envie de dire d'autres mots ?
Non, c'est bon.
Bon, allez, on y va. Ouais, Julia, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis très, très content de discuter avec toi aujourd'hui. Make yourself at home. Let's go.
Ok, merci. Merci Jérémy. Je suis hyper ravie aussi. Je suis très contente. Je suis très contente de notre première rencontre.
Ouais.
De cette curiosité.
Mm-hmm.
De ce clic.
Ouais, cet été.
Ouais, cet été, dans le jardin.
Ouais, c'était bien.
C'était bien. Avec les enfants qui jouaient et tout. Ouais. Tu vois, le vent, le doux, voilà, qui nous caressait la peau, toute cette insouciance-là. Ouais, on s'est rencontrés dans ce contexte-là.
Ouais. Mm. Et puis là, c'est différent, mais ouais. C'est...
Non, mais c'est chouette de te retrouver.
Ouais. Tu connais la première question, qui est, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? venant de toi, je m'attends à genre plein de trucs.
Ah, je dirais deux trucs qui s'opposent vraiment. Il y a un peu tout ce que j'ai construit, tu sais, qui est plus de l'ordre de la sécurité ou du truc du plaisir, tu vois, où je me lève le matin, où je me fais des petits déj de dingue, parce que tu vois, je fais vachement de sport, et du coup, je fantasme mon petit déjeuner, des trucs très cons, très simples, bien sûr, mon fils, bien sûr, mon mari, tu vois, voilà. Tous ces trucs chouettes et cette maison super chouette qu'on a la chance d'avoir.
C'est vrai.
Avec toute cette lumière et cette nature à Bordeaux. Et puis l'autre truc, c'est ma vie professionnelle, tu vois, ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que je suis indépendante. Et j'ai l'impression là que ça part dans tous les sens, que je suis complètement tarée le matin.
C'est vrai.
Schizophrène de qu'est-ce que je vais faire, parce qu'en fait il y a tellement de sujets sur lesquels je peux travailler et je dirais de métiers un peu, tu vois, différents que j'exerce, que j'ai un peu c'est un peu luxueux pour moi de me dire que le matin je peux commencer en me disant je fais ce que je veux, je vous emmerde tous, je fais ce que je veux. En dehors d'être indépendante, c'est de choisir si je veux écrire, si je veux réfléchir sur plutôt du conseil, si je veux travailler sur le projet de podcast, si de coaching, si j'ai envie de travailler sur de la DA, si j'ai envie de faire du graphisme, si j'ai envie de travailler sur un cours avec mes étudiants, ça c'est incroyable quoi, c'est ultra motivant de me dire que je peux pas m'ennuyer.
Mais c'est assez vertigineux quand même, non?
Ce qui serait vertigineux, c'est d'avoir pas le choix. Pour moi, le précipice, ça serait d'avoir un seul truc à faire. Ou, en tout cas, d'être sûr de ce que je fais le lendemain. Mmh. Ouais.
Et comment t'as fait pour avoir autant de choix? Parce que t'es très multicasquette.
Multicasquette, ouais. T'as vu, je m'emporte.
Ouais. Mais les auditeurs peuvent pas le voir.
Tu sais, ça s'est un peu imposé. En fait, je vais parler de sécurité.
Ok.
Ça fait deux fois que j'en parle, je me rends compte.
Au bout de
3 minutes. en fait, quand j'ai commencé ma carrière à Paris, j'ai travaillé pour d'autres, des gens super, trois endroits où j'ai été. Et puis, en une année ou une année et demie, j'ai démissionné 3 fois. Et puis j'étais jeune designer, c'était en pleine crise en plus à l'époque. Tu vois, ça se faisait pas.
Tu étais en crise ou c'était
non,
la crise?
Non, c'était la crise économique. Ah, okay. C'est même, voilà. D'accord. Et du coup, tu vois, il y avait beaucoup de peur un peu qui était contextuelle sur le fait de trouver un emploi, sur le fait que c'était difficile. Et en fait, à chaque fois que je prenais un job, au bout de quelques mois, il y avait des espèces de limites qui étaient tout de suite qui s'imposaient. C'était au niveau du management, c'était pas adapté à moi parce que c'était spécial ou un peu agressif, ou dégradant, je sais pas, dénigrant. Mmh, mmh. Le fait est que je voyais pas mon évolution de carrière, soit le fait que je travaillais trop pour certains aussi. Tu sais, j'adorais mon job, mais en fait, il y avait comme un burn-out qui se profilait, j'en ai fait même deux.
Aïe.
en 3 ans d'intervalle. Enfin, des burn-out, je suis pas allée à l'hôpital, mais j'étais hyper crevée et tout ça. Et du coup, il y avait pas d'équilibre qui se trouvait. Et quand j'en pouvais plus physiquement, j'ai pas eu le choix que de me dire, OK, allez, je me tente d'être indépendante. Emmanuel Romeuf, qui lui était indépendant depuis le départ, et puis je voyais que ça se passait plutôt bien, et du coup je me suis dit, allez, ok, on est jeune, on est à Paris, on y va, quoi.
Ouais.
Voilà.
Donc tu t'es lancé en freelance au bout de combien d'années?
Au bout de 1 an et demi, on va dire.
Ah, ok. Depuis, ça faisait 1 an et demi que tu bossais, et
voilà,
hop, t'as sauté.
Exactement. Et j'ai eu différents rôles. Avant ça, j'étais assistante, j'étais dans une boîte de design interactif, et puis j'étais dans un petit atelier de création qui travaillait beaucoup pour des marques de luxe notamment, et j'avais quand même déjà une petite expérience, c'était chouette. Voilà.
Du coup, tu fais le grand saut?
Je fais le grand saut, et en fait, il y a un truc assez incroyable qui s'est passé, c'est que quand j'étais étudiante aux Arts Déco de Strasbourg, j'ai fait un mémoire sur les mathématiques et la danse.
Ah ouais?
Ouais, et en fait, il se trouvait que Maggie Marin, une chorégraphe que peut-être pas mal d'auditeurs connaîtront, en fait, elle travaillait sur une pièce qui s'appelle Umwelt. Elle a fait une pièce très connue qui s'appelle Maybe, que beaucoup de gens connaissent. Et donc là, c'était Umwelt, et c'était qui veut dire milieu environnant. Et en fait, elle travaillait sur les combinatoires associés au déplacement. Okay. Avec un jeu de miroir et de nombre de portes et de combinatoires.
Oh là là.
Donc tout ça était très intéressant. Et de ce fait, j'ai contacté la compagnie Maggie Marin, j'ai fait un stage et j'ai rencontré un de ces danseurs qui jouait cette pièce qui s'appelle Yoann Bourgeois. Okay. Et Yoann Bourgeois, c'est un chorégraphe aujourd'hui. Bah, ouais.
Ah, mais je l'ai vu dans ton portfolio.
Oui,
ouais, c'est ça.
Voilà. Et en fait, c'est mon premier client freelance.
Ah.
En fait, c'est une vraie rencontre. Lors de ce stage où moi je prenais des photos, j'ai fait un bouquin sur la retranscription graphique des déplacements au sol, tu vois, sur les notations chorégraphiques, donc un truc un peu particulier,
ouais.
Qui m'a beaucoup passionnée parce que j'aimais beaucoup la photo aussi, donc c'était chouette. Je pouvais vraiment faire plein de photos. Et Yoann Bourgeois, en fait, il a lancé sa compagnie à cette époque et du coup il m'a fait confiance. Donc on a travaillé sur une identité et ça a été pour mon premier client, voilà. Yoann Bourgeois.
C'est toujours quelque chose, hein, le premier client qui te permet de te lancer en quelque sorte, qui te fait confiance.
Et puis en qui t'as confiance aussi.
Ouais.
Parce que évidemment, répondre à des sujets, c'est pas la même chose que répondre ou même sous la direction de quelqu'un quand tu travailles dans une agence. T'as une protection aussi du fait d'avoir quelqu'un qui va te dire c'est bien, c'est pas bien, qui va juger ton travail, qui va l'encourager ou demander des améliorations.
Ouais.
Et quand tu tentes, le premier client, c'est peut-être bien de se dire, tiens, ok, c'est bon, je lui fais confiance.
Ouais. Mm. Et tu parlais tout à l'heure sécurité, maintenant tu parles protection, et tu parles aussi du saut dans le vide qui était le freelancing. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu as t'as pris des clics et tes claques et hop, allez, on y va.
Ah, j'ai un soulagement.
C'est vrai?
Ouais. Pour moi, il y avait la question financière, parce que on était autonome financièrement, donc on devait compter sur nous. C'est chouette quand on peut compter sur les autres, nos parents, des amis ou quoi. Nous, c'était pas le cas. On devait compter sur nous financièrement, parce que c'est comme ça.
Oui, bien sûr.
Et parce que mes parents, ils sont super généreux, mais ils avaient leurs moyens à eux, et puis ils pouvaient pas me sécuriser à ce niveau-là justement.
Bien sûr.
Et donc, en fait, c'était un soulagement parce que. Il y avait cette temporalité que tu peux décider, cette méthodologie que tu peux décider. Je crois que j'ai toujours été assez méthodique, en fait, disciplinée, sur le fait de me lever le matin, de conscientiser un certain process de travail.
Ouais.
Ça, c'est aussi des gens qui me l'ont transmis. Tu vois, l'intérêt de peut-être commencer aussi des fois dans des agences, c'est ça.
Oui.
C'est que tu vas avoir un côté organisationnel ou une notion comptable de devis, de négociation.
Ouais.
Qui vont être très décomplexantes quand t'es jeune. Donc j'avais ce bagage-là en fait de négo et du coup j'ai été rentable en fait sur ce projet. Ça c'est cool.
Avec
Yoann Bourgeois, le prix que j'ai demandé c'était un prix qui était aligné avec ce que je pensais valoir et le temps que j'allais y accorder. J'avais cette notion de temps argent qui me permettait d'être aussi à l'aise dans le projet, généreuse.
Bien sûr.
Et puis de me dire alors, faut quand même que je me bouge pour la suite, mais en tout cas, c'est possible. C'est possible de continuer à être en sécurité, tu vois, de faire perdurer ça, parce que j'ai cette notion qui me permet de bien de viser, et puis c'est cette espèce d'élan, quoi. Cet élan créatif, cet élan intuitif de discussion, de rencontre. Moi, j'aime trop les gens. Enfin, je veux dire, mes clients,
c'est vrai.
C'est un truc de fou.
Moi, j'entends aussi cette structure qui au final te permet justement cet élan, cette liberté. Moi, je sais que je suis relativement autodidacte et il y a des moments où même dans mon processus créatif où je suis vraiment genre, je sais pas si c'est une fausse excuse ou je ne sais quoi, mais tu sais le côté genre, moi j'ai fait les beaux-arts et j'ai pas du tout fait des études d'illustration, le podcasting ou quoi que ce soit, j'ai toujours tout appris sur le tas, j'ai jamais eu la structure et de temps en temps c'est peut-être une fausse excuse mais j'aurais peut-être voulu avoir quelque chose de plus structurant qui par exemple moi c'est un truc bête mais par exemple j'y pense parce que juste avant que t'arrives je bossais dessus les couleurs, moi j'ai un mal fou à travailler sur les couleurs.
Et pourtant, elles sont magnifiques.
Mais c'est vraiment, beaucoup de gens me disent, j'aime beaucoup tes couleurs, mais ils se rendent pas compte
c'est
à la sueur de mon front, enfin, entre guillemets, j'exagère un peu, mais c'est genre, j'ai toujours eu besoin de beaucoup d'inspiration, de regarder chez les autres pour les faire miens, et je suis toujours là à balbutier, et c'est toujours une petite bagarre quand je fais les couleurs de mes illustrations, surtout au plus elles sont composées, au plus j'ai du mal, et je me disais, punaise, si j'avais eu, des cours sur la théorie de la couleur ou sur me structurer que ça va avec ça, etc. Alors que mais en même temps, voilà, il y a cette notion de responsabilité. En fait, tout est toujours possible. Tu te formes, tu lis des livres, et bref. Et en fait, c'est simple. Enfin, ça me fait juste écho parce que quand on se connaît pas des masses non plus, mais quand je vois ton boulot et ce qui transparaît de toi, etc., c'est vraiment t'arrives à faire beaucoup de choses, mais on sent qu'il y a cette discipline, cette structure qui te permet. Moi, je parle souvent de définir son cadre et ça peut être un très très large cadre dedans te permet de t'amuser à fond, quoi.
Bien sûr. Parce que ce que tu dis, tu vois, tu parles de ressources aussi. Mmh. C'est-à-dire que dans justement le fait d'être autodidacte, bah, tu vois, c'est pas mon cas pour le coup. Mmh. Et t'es allé chercher ce qui te manquait. C'est toi, oui. Tu parlais d'organisationnel. Bah ok, comment tout d'un coup je vais aller chercher ça. Alors je cherche, tu vois, c'est chercheur. Ouais. T'étais en quête de trouver.
Oh, j'adore ça. Mais toi aussi.
Oui, bien sûr. Ouais, complètement. En fait, j'ai l'impression de ça bug dans mon cerveau là, tu vois, quand tu me parles, parce que ça bug. Ding ding, ça fait du ping pong. Ça me fait penser à de la systémique. En fait, c'est vraiment ce système. C'est quels sont tous les systèmes qui sont intercroisés, tu vois, qui s'entrechoquent. Ouais. Et en fait, plus je vieillis, j'adore vieillir. Plus les systèmes, en fait, ça fait comme des petits systèmes solaires, tu vois. Tac, ça tourne. Il y en a un qui tourne comme ça, l'autre qui tourne comme ça, l'autre qui tourne comme ça. Et au début, j'en avais un seul. Et puis, dès que je m'en éloignais, ça me faisait « Waouh, je m'éloigne, ça me fait peur ». Et en fait, « Ah non, c'est bon, il y a un autre truc qui vient me rattraper. »
Ouais. Et, ok, ouais, continue.
Et tu vois, peut-être que toutes les couches de tous les métiers là que je superpose et que j'assemble au fil des années, c'est un peu ça. C'est plein de petits systèmes qui, et je me balade de l'un à l'autre, où ils se rencontrent, ils se touchent,
Mais donc, toi, de base, t'as étudié,
design graphique.
Design graphique.
Ouais.
Et puis, ça t'a amené, c'est la curiosité qui t'a poussé vers le web design, vers la direction artistique, vers c'est les opportunités, j'imagine, les petits systèmes solaires qui s'entrechoquent.
Les opportunités, les contraintes, un peu tout. En fait, tu sais, cette histoire de petites graines, c'est que tu plantes un peu des petites graines un peu partout, tu discutes avec quelqu'un, tu dis, bah, je cherche un travail. Moi, j'ai, par exemple, dans un des premiers jobs que j'ai quitté, après j'avais un nouveau cercle d'amis à Paris, t'es là, tu fais une petite soirée, tu parles aux gens, souvent t'es dans un cercle de designers, pourquoi pas, et tu dis, bah tiens, je cherche à partir de là où je suis, tu connais pas quelqu'un qui cherche quelqu'un, bah si, mais en web design, ah ouais, mais alors moi j'ai jamais fait de web design, et du coup c'était dans l'agence Area 17 où j'ai atterri, et je me rappelle que ce que j'avais dit, c'est que j'adorais les formulaires, j'adore tout ce qui est wireframing et tout ce qui est justement trouver une solution.
Oui. Bon, c'est un thème qui transparaît en beaucoup de choses chez toi.
Voilà, et tu vois, la netteté ou la clarté.
Ouais.
Voilà, c'est quelque chose qui transparaît peut-être dans mon travail et que je cherche une espèce de déficience.
Pourquoi ?
Peut-être qu'au départ, c'était la volonté de perfection.
Ouais.
Ok, hein, tu vois, cette volonté.
Ça me parle.
Ok, qui m'a conduit à l'épuisement. Ça c'est l'épuisement. Et ensuite le rebond. Alors le rebond, c'est les rencontres, c'est les gens qui fonctionnent autrement. Là, tu vois, j'ai rencontré une collègue dans un coworking, Paola, qui fonctionnait hyper différemment. Tu qui était plutôt dans la réassurance, dans le cool, dans tout va bien, c'est cool, ça va. Tu vois, vraiment peace, quoi, Julia, on se calme. Ouais. Pas, en fait, elle était dans l'anti-contrôle.
Ouais.
Et l'anti-méthode, et ça m'a, et c'était, j'absorbe beaucoup, moi, des gens.
Ouais.
Et elle était tellement lumineuse et tellement quelque chose de très, très fort.
Ouais.
Que ça m'a touchée. Et ça, je me suis nourrie de ce calme, en fait, aussi au travail. Tout va bien. On sauve pas des vies, on est designer.
Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai. Mais du coup, parce que ça fait écho chez moi, parce que j'ai un putain de problème de perfectionnisme,
oui.
Tu vois, pour X, Y, Z raison. Et je sais que les personnes que j'aime le plus au monde, genre mes meilleurs amis, ils sont tous super zen, super chill, et c'est même pas tant qu'ils me rassurent, le terme n'est pas bien choisi, mais si ils m'apaisent. C'est des personnes tellement apaisantes, et si je pouvais juste m'entourer comme ça de personnes, je serais tellement bien.
Ouais, mais est-ce que t'as pas l'impression autour de toi qu'il y en a beaucoup, c'est comme ça?
Si, c'est comme le truc de l'énéagramme, hein, si tu connais peut-être. Oui. Je veux dire, moi je suis à 1 et puis eux c'est tous des 9, tu vois. Et en fait, bon, je sais, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si on va. Mais voilà, les 1, ils sont très très devoirs, très faire la bonne chose, enfin.
Bien sûr.
Et les 9, ils sont un peu plus cool, un peu plus. Mais c'est peut-être ce côté cool qui peut aussi de temps en temps les perdre. Et enfin bref.
Ça me fait penser à un truc, tu sais, en coaching, justement, on a appris des notions, ça s'appelle les drivers. Alors c'est pas un mot que je trouve ça très joli, mais.
Et hop, boucle sur le coaching.
Ouais.
Non, continue.
Sur la notion ce soit fort. Soit
ouais,
parfait.
Ouais.
En fait, c'est des espèces de répétitions qui sont souvent construites dans l'enfance de signes de reconnaissance. Par exemple, je sais pas, tes parents vont te dire, putain, mais c'est hyper parfait ce que t'as fait, il est parfait ce dessin, c'est incroyable, c'est génial. Et toi?
Oui, t'as
une encre positive qui se crée. Et des fois, cette encre positive, elle est cool toute ta vie, en fait. Mmh. Moi, mon soi parfait, il est nickel, ou mon soi fort, le fait d'endosser des choses, il me va bien, je suis hyper ok avec ça. Il y a des moments où ça t'empêche un peu, ça t'use, à force de, j'arrive pas à dire non. En fait, à force de vouloir pas montrer que je suis faible, j'arrive pas à dire non. Et ça, c'est chiant.
Mmh.
C'est ça, en fait. C'est à ça que ça me fait penser aussi dans cette recherche de perfection. Mais tu vois, quand ça c'est dans le design, justement, j'avais un projet qui me tenait hyper à cœur avec un client qui était hyper prestigieux pour moi à l'époque quand j'ai commencé, qui m'a fait confiance, qui est venu me chercher. Donc, j'étais un peu, ok.
Ouais, moi.
Ok. Moi. Et qui est venu me chercher justement en référence à ce projet avec Yoann Bourgeois, qui m'a dit, mais je connais, j'adore ce projet, c'est toi qui l'as fait, c'est chouette.
Ouais.
Voilà. Et ce projet-là, je me suis mis beaucoup de pression. Et en fait, ça m'a conduit à un vrai épuisement. Et donc, quand je me suis reconstruite, je me suis bien sûr me demandé, mais est-ce bien nécessaire de souffrir autant, de chercher autant à satisfaire tout de suite?
Ah ouais.
C'est pas satisfaire dans quelques temps, c'est tout de suite. Je veux que tout de suite, il adhère à 100%.
Ouais.
Et ça, j'en reviens.
C'est-à-dire?
J'en reviens parce que j'ai peut-être maintenant l'intime conviction qu'on est plus intelligent qu'on est vraiment plus intelligent à deux cerveaux à minima.
Ouais.
Et que là où le client, j'avais peur de ses remarques, j'avais peur de de ce qu'il pouvait dire. Mais c'est tellement meilleur, quoi. En fait, quand tu pars du principe que l'intentionnalité, l'intention de ton client, c'est d'améliorer le projet.
Bah, bien sûr.
Quand tu pars pas du principe qu'il est là pour te casser, il est là pour améliorer. Donc évidemment, quand tu t'ouvres à ça, tu t'ouvres avec la dynamique de projet, elle est différente. Et ce soit parfait, en fait, tu le maîtrises pas. En fait, ça va là où ça doit aller, en fait.
Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Et ça, la vie, c'est le bordel, quoi. Simplement, il y a des vibrations, des perturbations, etc. Et puis ça fait partie du process, c'est tout, c'est
bien
comme
sûr.
Ça. Et c'est même beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus intéressant. C'est le truc cucu là, c'est quoi? C'est le voyage qui compte, pas la destination. Enfin, ce genre de choses.
Bien sûr.
Ok. Et donc toi, donc t'as ces diverses casquettes, l'une qui t'amène à l'autre, etc. Et les gens ont peut-être lu entre les lignes, mais tu t'es aussi tourné à un moment donné vers le coaching.
Oui.
Et je me demandais, mais qu'est-ce qui a fait à un moment donné dans ton parcours que tu t'es dit, ça m'intéresse, je veux aller dans cette direction? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort chez toi.
Oui. Disons que ça s'est fait en plusieurs étapes. En tant que graphiste, au départ, tu vois, donc je répondais à tes commandes, je faisais des logos. Et puis, plus t'avances dans le temps et l'expérience, plus t'es consultant, tu sais.
Oui.
Le mot qui veut rien dire, tout et rien dire.
Oui, un fourre-tout un peu.
Mais un fourre-tout, mais qui veut dire quand même quelque chose, qui veut dire, je peux te conseiller sur ce que je connais.
Bien sûr.
C'est ça que ça veut dire. C'est une des définitions simples.
Bien sûr.
On va dire. Et ça, je me suis beaucoup, ça m'a beaucoup plu de pouvoir éclairer des projets, éclairer des process, éclairer des directions artistiques, faire du sourcing de compétences. J'adore recommander des gens, rédacteurs, développeurs, designers, autres aussi, graphiques, illustrateurs. Agence aurait été un métier que j'aurais adoré faire.
Ah oui?
Ouais, mais ça, je m'y suis prise trop tard, je pense. Enfin, ça fait partie des choses peut-être que je développerai, mais tu vois, vraiment, aller promouvoir le travail des autres. Ça, c'est un truc qui connectait les gens. Enfin, voilà.
Ah ouais. Mais moi, je suis pareil. J'adore ça. Ce podcast, c'est un peu ça. Regardez cette personne. C'est super. Et comme tu disais, il y a plus dans deux cerveaux que dans un. Et moi, je trouve que moi, j'ai toujours eu cette impression d'être devoir la personne ressource justement, mais je suis limité. Et je dis pas que j'ai pas des ressources infinies. Je pense que je suis quelqu'un de, je suis dans une philosophie un peu l'univers est en expansion constante, tu vois. Donc,
j'adore.
Du coup, je suis un peu là-dedans. Mm. You are infinite. Mais en même temps, j'ai que demain et mon contexte, et ma situation et de mettre la lumière sur d'autres personnes, c'est genre, ben, allez, écouter, lire, regarder telle ou telle personne parce que c'est super et voilà.
Mais ouais. Mais c'est partager ce qui nous touche aux gens qu'on aime ou aux gens qu'on n'aime pas encore, mais qui vont peut-être venir à nous.
Ouais.
C'est ça aussi.
Mm-hmm.
Sur ta question du...
Oui, donc connecter les gens,
ouais,
etc.
Ouais, connecter les gens. Et après, donc conseiller sur du design. Et puis alors après, au niveau identité visuelle, moi j'ai développé... on a tous une manière de bosser. Mmh. Et on va dire que dans le process, j'ai développé un questionnaire assez particulier avec mes clients.
Ah ouais.
Très identitaire.
De nouveau, structure.
Très structurel, voilà. En fait, qui allait à la pêche, à l'information, à la data. Ok, si vous deviez me citer tu as des questions bêtes, simples, on va dire logiques. Mmh. Quand tu vas aborder quelqu'un qui veut te confier un logo, son identité visuelle.
Bien sûr.
Ok. Mmh. Tu vas chercher à comprendre qu'est-ce qui se joue, mais qu'est-ce qu'il veut rayonner, qu'est-ce qu'il veut dire, à qui il s'adresse, etc. Et donc ça, j'avais déjà un truc assez méthodique de questionnaire pour vraiment essayer de préciser le brief, parce que c'était pas toujours facile pour les clients de, qu'ils soient d'ailleurs dans des marques ou pas, ou dans des grands groupes. T'as souvent des stagiaires aussi parfois qui sont chefs de projet, qui ont besoin un peu comme ça d'avoir une grille pour pouvoir s'exprimer.
Ouais.
Et moi je me suis dit pourquoi pas. Et en fait ça a bien fonctionné. J'avais souvent, tu vois, en 10 ans que je travaille, ça s'est toujours bien passé. J'ai pas eu de soucis de je me reconnais pas dans le projet, parce que j'estime que si tu questionnes bien la personne et que lui il te choisit bien, parce que c'est une question de style, on va pas l'oublier.
Mmh.
Hein. Il a beau apprécier ta manière de penser, s'il t'aime pas en tant que portfolio designer, ça va pas, tu vas pas pouvoir forcément être le caméléon que t'aimerais.
Ouais.
En tout cas, ça a commencé comme ça et j'ai eu beaucoup de retours de mes clients sur, c'est fou, j'aurais jamais cru que faire un logo, c'était comme ça. J'ai dit, mais je crois pas que ce soit forcément comme ça, mais en tout cas, c'est ce que je te propose. Enfin, c'est une manière de faire, mais il y a plein d'autres manières hyper incroyables. Enfin, te bloque pas là-dessus, c'est pas la méthode. Je me justifiais presque de dire non, mais il y a d'autres trucs, tu sais.
Ouais.
Mais petit à petit, à force d'avoir des retours comme ça, je me suis rendu compte que passer du temps avec les gens, les comprendre, les faire se rendre compte de choses et non pas leur dire quoi faire, ça devenait vachement intéressant.
Ouais, tu faisais accoucher les esprits.
Et je faisais accoucher les esprits et au bénéfice d'un projet de design.
Ouais.
Mais là, je me suis demandé, et si ça pouvait être un autre projet qui concerne pas du graphisme, en fait.
Mmh.
Et ma maternité, le fait d'avoir Alexandre, c'est cette pause, on va dire, de maman, cette pause, t'as les 9 mois de grossesse, c'est pas là où j'ai fait une pause, j'ai eu une super grossesse, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse que j'ai pu vivre hyper tranquillement.
Mmh.
Et j'ai pu travailler quasiment jusqu'au bout, donc c'était cool. C'est plutôt après, on a eu une expérience personnelle, tu vois, de début de parentalité qui était un peu compliquée, où on a peu dormi pendant longtemps, très longtemps, très longtemps.
J'empathie.
Où j'avais l'impression d'être d'une GI, tu sais, qui se levait n'importe quand, tu sais, qu'on foutait des seaux d'eau glacée sur la tête. Il avait un problème de RGO, de reflux, que pas mal de parents ont connu et qui était très sévère chez lui et qui faisait qu'il avait très mal. Alors c'était pas grave, on m'a rassuré sur le fait que non.
Oui, mais malgré tout, si tu dors 2 heures par nuit.
Mais quand tu dors 2 heures par nuit pendant quasi un an, c'est compliqué.
C'est
et c'est vrai que, mon cerveau fonctionnait mal à ce moment-là. Parce que forcément, tu le prives, t'as une privation, hein.
Mmh.
Et qu'en fait, entre les 10 ans de carrière dans le design et donc tu vois les questionnements que tu peux avoir sur la notion de plaisir à nouveau, de passion, de qu'est-ce qui te motive, de cette nouveauté un peu, tu vois, la passion, on en parlera peut-être, mais il y avait ça qui s'est soufflé et cette pause un peu forcée. Autant on était ravis d'être parents, on a un enfant hyper solaire et hyper drôle et tu vois qui a un caractère génial, mais on était épuisés et du coup je me suis posé la question de si je devais me dire qu'est-ce que dans toutes tes envies que t'as eues depuis le début, qu'est-ce que t'as pas exploité? Enfin, exploité au sens où t'as pas fouillé pour en faire éventuellement un métier? Tu vois, qu'est-ce que t'as pas osé faire?
Pourtant, t'avais déjà fait tellement de choses. Tu te dis, bon, allez, je suis claqué, j'ai un enfant, si on faisait quelque chose de nouveau.
Oui. Et
mais je pense que c'est souvent propice au questionnement un peu existentiel.
Bien sûr, on est sur du middle life, tu vois, c'est vraiment tu vois, on parle souvent de la crise de la quarantaine, mais c'est vraiment la moitié de ta vie, c'est qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Et qui je suis? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que faire des logos, ça a du sens pour moi? Est-ce que oui, le process, oui, les rencontres, oui, ça, oui, je trouve que j'améliore en quelque sorte, je fais ma part, tu vois. Et ça me fait plaisir et c'est cool, ça me va, je fais plein d'autres choses à côté qui sont pas pécuniaires et qui aussi remplissent des domaines de vie autres. Mais quand même, professionnellement, c'est quand même un terrain de jeu pour moi qui est, c'est là où je m'accomplis aussi beaucoup et où j'ai beaucoup de plaisir. Et je cherchais à prendre du plaisir.
Parce que tu en avais moins, du coup?
Ouais, je pense que j'en avais moins. Mais c'était plus une question de, d'automatisme,
Tu n'étais plus surprise?
J'étais plus surprise, mais il y avait ce truc de je sais plus que je sais ou je sais que je ne sais plus. Tu sais, ce truc de, t'as des connaissances et puis tu peux parfois les appliquer un peu de manière automatique sans être, en fait, dans cette remise en question de ton process. Moi, j'ai un esprit qui va, qui peut digresser, mais j'ai aussi ce côté système méthode qui vient, expliquer tout ça. Tu sais, où je trouve toujours un sens, en fait. Je m'explique toujours des trucs un peu chelous. Oui, c'est bon, ça marche. C'est un peu comme ça. Bref, en tout cas, j'ai oublié ta question.
Non.
Je suis désolée.
C'était comment t'étais arrivé au coaching, mais.
Oui.
Je me pose aussi la question si. Enfin, j'ai l'impression pour moi, mais je pense que c'est quelque chose d'assez.
Ouais.
Commun, c'est. Les 30 premières années, enfin, on m'a dit que genre la crise de la quarantaine serait a priori une crise qui débuterait à 30, enfin, a priori, hein, dans la construction de l'homme, en tout cas aujourd'hui, enfin, l'homme avec un grand H, que la crise de la quarantaine, ce serait genre une crise qui est censée, une remise en question qui est censée commencer à 30 ans et qu'on repousse et qui pourrait péter à 40, tu vois. Et moi, je me retrouve un petit peu là-dedans aussi aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai l'impression que depuis que je suis petit, tu vois, moi, je suis le genre le gars qui, depuis que je suis petit, je veux gagner ma vie en dessinant. Genre, depuis que je suis petit, il y avait ce côté un peu carriériste dans le dessin parce que c'était valorisé, parce que c'était quelque chose... auquel je m'étais attaché, j'avais pu sortir mon épingle du jeu avec mes copains, auprès de ma famille, enfin plein de choses, tu vois. Et c'est comme si je m'étais évertué les 30 premières années de ma vie, tu vois, à consolider ce fantasme d'enfant, tu vois, à construire cette sorte de cathédrale, tu vois.
Complètement.
Puis de cocher des cases, j'ai bossé pour tel client, j'ai été représenté, j'ai pu participer à telle expo, j'ai pu rencontrer telle personne, j'ai pu...
Bien sûr.
Et puis tu... Voilà, t'as ton sorte d'édifice, mais en fait, en même temps, ça te coûte quelque part, en termes d'énergie, etc. Et puis, comme toi, moi je suis devenu papa il y a 2 ans et demi, nos enfants ont plus ou moins le même âge
plus
d'ailleurs,
ouais.
Et puis ça te retourne comme une crêpe, et puis j'en suis aussi un petit peu à ces côtés un peu automatisme, etc. Et puis, tu te poses la question genre... Et maintenant, et que tu te rends, au plus tu apprends à te connaître, au plus tu te rends compte que, enfin moi je me rends compte que l'illustration c'était clairement un outil d'émancipation.
Absolument,
en fait.
Mais je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis là.
Ouais.
C'est le rapport à l'autre, en fait, quand tu parles des 30 premières années. En tout cas, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport à, je dirais peut-être plus l'ego aussi. C'est l'ego, c'est, c'est qu'est-ce que je dis de moi aux autres, qu'est-ce que les gens, voilà, comment j'ai envie que les gens me perçoivent. Et c'est vrai que ça, tu vois, le fait d'avoir un métier, de travailler, d'avoir cette reconnaissance, de s'élever, de gagner de sa vie aussi. Moi, je viens d'une famille super modeste, c'était hyper important dans mes besoins, vraiment dans les trucs forts, d'être autonome, indépendante. J'ai aussi des modèles féminins comme, enfin, ma mère est une femme ultra indépendante et donc qui m'a vraiment poussée. À avoir envie de cette indépendance-là. Elle est roumaine aussi, enfin, tu vois, elle est pays communiste où on a un rapport aussi à la femme qui est très différent. Là-bas, c'est on est davantage dans la femme qui doit être sachante, qui doit être avoir du, tu vois, travailler, être autonome, etc. On est beaucoup moins dans ce rapport homme-femme plus patriarcale qu'il y aurait ici. En tout cas, je suis pas spécialiste, mais c'est un roman qui a pu m'éclairer là-dessus, sur mes racines, on va dire, et sur peut-être ce tempérament de temps en temps. Et sur la suite, sur la quarantaine, ouais, c'est comme si tout d'un coup, ok, j'ai accompli tout ça, je suis fière de certaines choses.
Bien sûr.
Et puis c'est peut-être que maintenant que j'ose le dire, que j'en suis fière.
Ouais.
Tu vois, on ose dire assez tard qu'on est fière. Enfin, je dis pas.
On n'a pas à rougir de ce qu'on a accompli.
Non.
Et puis après, on a aussi, je crois, un début de clairvoyance un peu plus sur qui on est vraiment, nos failles. Et, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu cette... Enfin, je suis toujours, d'ailleurs, dans ce processus, vraiment très fortement, d'ailleurs, ces derniers temps, plus que d'habitude. Mais c'est genre... Tu vois, justement, je te parlais de construire une cathédrale, et puis tu vois toutes les failles de la cathédrale.
Ouais.
Et tu te dis, mais ce truc qui va... Est-ce que c'est juste de... Est-ce que c'est juste superficiel, tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et bah, je pense que pour beaucoup de gens aussi, la parentalité, ça joue parce que ça te met à nu face à ce petit être tout innocent.
Tu es à poil.
Ouais, t'es à poil, littéralement. Et genre, tu peux pas test, quoi. Il n'y avait pas de bullshit. Et puis, tu vois tout, entre guillemets, hein, je dis ça avec beaucoup de compassion et de, mais ce qui ne va pas chez toi. Et puis, tu te dis juste genre, bah oui, mais, du coup, il y a un questionnement plus profond que juste faire des belles images.
On est bien d'accord.
Tu vois, et j'imagine que peut-être pour toi, c'est ce qui t'a aussi amené à la suite, je sais pas.
Oui, parce qu'en fait, tu sais, c'est aussi quand la sphère personnelle, elle est très reliée à la sphère professionnelle. Enfin, en tout cas, moi, je la vis comme ça, elle est très...
Nos métiers.
Enfin, nos métiers, mais peut-être plein de gens, enfin, plein d'autres métiers aussi, quelque part. Mais tu disais, tu vois, dans plein de podcasts que t'aimes l'humain, mais je te rejoins à 100 milliards de pourcents. C'est les gens, tu vois, mes amis autour de moi, cette idée que, mais comment je pourrais faire pour aider ou contribuer, mais sans m'imposer?
Ah oui, punaise.
Putain.
Ouais.
Putain, quoi. Et j'ai pas envie de donner mon avis. De un, ça me prend une énergie incroyable de donner mon avis. Il y a 9 chances sur 10 pour que ça soit, tu vois, que ça tombe à côté, en fait. J'en reviens, tu vois, de cette sensation de toute puissance, tu vois. C'est pas parce que t'es dans l'hypersensibilité ou dans l'hyper, sensorialité, tout ce que tu veux, que tu comprends, tu vois, la réalité de l'autre. Et typiquement, le coaching, c'est la puissance du questionnement. C'est vraiment, voilà. On part du principe que on va travailler vraiment le jeu du client, le jeu de la personne, l'identité profonde, et que moi on s'emballe, on s'en fout de ce que je pense. C'est comment justement tu vois, il y a une phrase super connue qui dit la carte n'est pas le territoire, mais qui est aussi de dire ok, c'est vraiment l'expérience de chacun. Et les filtres de chacun et les lunettes de chacun qui vont permettre de comprendre, en fait, comment il vit sa réalité, comment il vit les choses. Et on peut accompagner en coaching, tu vois, des gens sur des objectifs, parce que si on veut expliquer un petit peu ce que c'est en gros, voilà, il va y avoir un objectif à atteindre, et on va accompagner cette, qui sera quantifiable, mesurable, atteignable, plein de petits critères, tu vois, qui sont associés. Et on va l'accompagner, dans la définition des étapes clés, en gros, ou des qui vont permettre cet objectif d'être atteint. On va pas lui garantir qu'elle l'atteigne, mais on va en tout cas faire en sorte qu'elle aille vers. Et on travaille à l'autonomie de la personne. On travaille à la connaissance d'elle-même, à la compréhension de ses valeurs, de ses besoins, mais aussi de ses croyances. Des croyances qui sont aidantes et limitantes. On connaît aussi beaucoup la notion de plafond de verre. Tu sais, le plafond de verre, c'est vraiment cette espèce de plafond invisible, tu vois, mais que je m'empêche en fait de m'élever. Je m'autorise pas à. Et ça, les croyances limitantes, c'est très parlant comme mot, parce qu'en fait, c'est je peux pas faire ça parce que je suis comme ça. Ah oui. Alors racontez-moi. Et donc du coup, on va vraiment être dans cette approche du questionnement systémique, du miroir aussi, de l'effet miroir, de répéter, de reformuler pour que la personne s'entende dire. Et il y a rien de, parce que pourquoi c'est important qu'elle s'entende dire les choses? Parce qu'elle peut corriger, elle peut être pas d'accord avec ce qu'elle dit, elle peut préciser, et elle peut, en contraire, être très incroyablement, étonnée de ce qu'elle vient de dire. Alors franchement, j'ai jamais vu quelqu'un de plus étonné que de face à ce qu'il disait lui-même.
Ouais.
et c'est le mot que j'emploierais, c'est la puissance. Mmh. Parce que je trouve que c'est très puissant et c'est puissant de permission. Le coaching, ça te permet quoi? Ça te permet d'être ok avec le fait d'être tout pourri. Ça te permet d'être ok avec le fait d'être trop content. Mmh. Ça te permet d'être ok d'être, je sais pas, de mentir à quelqu'un, de pas aimer quelqu'un, de plein de choses en fait. Et la permission, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à me permettre. Mmh. Je dis deux fois la même chose.
Ouais ouais, mais vas-y continue.
C'est peut-être la clé. C'est peut-être la clé de ce qui me plaît dans le coaching, mais ce que j'ai peut-être découvert. Là, je t'en parle peut-être mieux que quand je me suis allée vers ça.
Oui.
Mais ce qui fait que j'y suis allée, c'était peut-être l'intuition que mon avis ne comptait pas.
Mmh. Wow. Vas-y, continue. Parce que ça doit être un coup.
Ouais.
Un peu, je sens passer parce que je pense aussi on se construit souvent. On parlait des 30 premières années de.
Ouais.
Moi, je sais, moi, je peux, moi, je vous prouve, regardez.
Oui.
Et puis une certaine reconnaissance.
Bien sûr.
Et qui est important dans la construction de, ouais. D'un individu ou d'une individu. Ouais. Et puis après, il y a ce moment, cette prise de conscience de mon avis peut-être ne compte pas.
Ne compte pas dans la solution pour l'autre.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est accepter son impuissance.
Ouais.
Parce que je sais que tu parles de puissance aussi.
Ouais, de puissance. En fait,
enfin, son impuissance vis-à-vis de l'autre, mais on est puissant pour soi.
Mais
en fait.
Tu sais, mais on a tous été, enfin, on a souvent tous. Du coup, maintenant, j'arrête de faire des généralités. Tu sais, on a tous, c'est de la généralisation.
Oui, oui, oui.
On arrête.
Mais on se comprend.
Mais tu vois, je me.
Ouais. Bug.
on a tous été confrontés à ce proche qu'on n'a pas pu aider ou qu'on se sentit incapable d'aider. Tu sais, on a beau savoir ou eu son expérience avec cette fameuse, cette petite expression qui dit que, voilà, la lanterne n'éclaire que celui qui la porte. Tu vois, et ça, c'est, où il y a une autre phrase que j'adore qui est, ne reste pas dans le brouillard alors qu'il y a du soleil à 500 mètres.
Ouais.
Ok, et en fait, bah il y a des gens autour de nous parfois qui sont dans ce brouillard ou qui sont dans, tu vois, dans cette phase de flou, de totale chute. Mmh. Et nous, on est là, on peut patauger, on a envie de les aider, on veut leur dire mais si, mais crois-y, mais tu devrais.
Ouais.
Ah putain. Mais en dehors, mais et puis tu peux te rendre compte peut-être plus tôt que ça que le mot tu devrais. Bon, ok, je le bannis de mon vocabulaire, très bien. Mais cette impuissance. Elle est frustrante.
Ouais.
Quand on est proche, qu'on aime les gens, elle est hyper et l'accepter que j'y peux rien ou je peux plus ou j'ai plus la force ou je ne sais pas. Et ben ça c'est à la fois une forme d'humilité, mais c'est une forme aussi pour moi de clairvoyance et d'acceptation de notre humanité et du fait que ok ben peut-être que moi j'ai envie de dire à cette personne soit ta meilleure amie, soit ton meilleur ami, tu vois.
Et en fait, je savais que tu continues sur cette tangente, mais j'ai pas de questions, juste continue.
Ouais. C'est une amie à moi qui m'a dit sois ta meilleure amie.
Parce que je pense que ça fait partie, il y a plein de choses, mais cette bienveillance envers soi-même,
ouais.
Elle fait partie de l'ADN du podcast. Enfin, et puis, c'est mon podcast, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'indulgence pour les autres.
Bien sûr.
Mais pas trop pour moi. je suis très sévère avec moi-même.
Ouais.
Et, je pense que, oui, ce désir de, je pense que ce podcast, c'est aussi ça, c'est une manière de, comment dire, de m'extraire de l'équation tout en étant dans l'équation. Enfin, tu sais, c'est genre,
bien sûr.
C'est pas moi le guide. C'est moi, je me considère comme tu disais tout à l'heure un chercheur, un explorateur qui va un petit peu dans la jungle, regarder ce que j'ai découvert, tu vois. Mais au final, c'est simplement que je me rends compte que non, je me suis jamais senti aussi bien que depuis que je ne sais pas. C'est le fameux triangle sauveur persécuteur victime
de Cartman
de sortir
triangle de Cartman,
du,
ouais.
du oui c'est ça de sortir de ce rôle de sauveur qui était
oui.
très très fort chez moi
ouais.
Plus jeune ça va beaucoup mieux ça mais
tu parles j'ai l'impression tout le temps d'avoir des pensées automatiques genre comment Comment?
Bah oui, on l'avait ressenti aussi la première fois quand je t'ai rencontré. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté, je pense qu'on partage ce côté aussi, ce self-made man ou woman, tu vois, oui. Tu me parlais de ton contexte familial ou, que c'est quelque part, à la force de tes, allez, on utilise des grands termes, tu vois, mais à la force de tes points que tu y arrives, mais ça use quand même. Et à un moment donné,
ben oui.
Il y a ce besoin de bienveillance, de genre, en fait, j'ai besoin de faire ce câlin avec moi-même parce que c'est trop dur.
Ben.
Et, ben moi, je sais que je suis à l'heure actuelle dans ce, en toute honnêteté, je me sens un petit peu perdu en ce moment.
Ouais.
Et je me sens un peu dans ce, il y a l'ancien Jérémy qui est en train de mourir.
Ouais.
Alors, il y a plein de trucs de, tu sais, bon, c'est des termes psy, hein, mais c'est genre les trois états du moi, tu sais, le moi enfant, le moi adulte, le moi parent, etc. Et il y a beaucoup de, je suis dans une phase comme ça où le moi enfant, des fonctionnements de l'enfance qui peuvent plus fonctionner aujourd'hui et que je laisse de côté et tout. Et du coup, ça vient aussi, réveiller de genre, OK, bah maintenant, qu'en est-il de la suite, tu vois?
Bien sûr.
Et
ça m'évoque la courbe du deuil, ce que tu dis.
Ah ouais, punaise, vas-y. J'en ai besoin. Ce podcast est pour moi.
Non, mais tu sais, c'est l'idée que quand quelque chose te pète à la gueule,
ouais.
Bon, t'as un état de sidération, parfois, souvent, de colère, tu vois, tu te débats, quoi. T'es là, mais putain, bordel, c'est quoi ce bordel? Et après, tu vois, t'as la chute, quoi. T'as le désarroi, la tristesse. Enfin, tu vois, t'étais vraiment en train d'être dans le caca, quoi. T'étais vraiment dans cette espèce d'état, en fait. Tu vois, la dépression, mais au sens vraiment dépressurisation. Et puis, l'acceptation. Après, ok, putain, ok. Bah, ok, j'en suis là. Voilà. Ok. Bon, bah, le ok, c'est le début de la remontée. Ça, ce que je viens de te faire, là, c'est la courbe du deuil.
Okay.
Et en fait, dans les processus, justement, de deuil, on parle de la courbe du deuil parce qu'elle est généraliste. Mm-hmm. Tu vois, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à plein de choses et de domaines. Ouais.
T'as dû en faire une courbe de deuil?
Oui. J'en ai fait une il y a longtemps. Mais j'en ai pas eu conscience.
D'accord.
Tu vois? Justement, après le deuxième burn-out. Enfin, moi, j'appelle ça burn-out, mais bon, après l'épuisement, on va appeler ça un épuisement.
Oui, oui.
J'avais vraiment des grosses crises d'angoisse. C'était très dur. Des flots de pensée insaisissables, interminables. Vraiment le cerveau qui ne s'éteignait plus. Je sais, l'inertie pour moi, c'est très facile. Je monte à 100 millions en 2 secondes.
Mmh.
Par contre, freiner, c'est très dur.
Ouais.
Et quand je monte dans le plaisir et dans la joie, bah écoute, j'ai envie de dire, ok, je peux peut-être être relou parce que je suis trop contente. Mais voilà. Mais quand t'es pas bien, que ça monte, c'est l'inertie du pas bien, elle monte et que tu peux pas freiner. Et ben ça, c'est relou, quoi.
Mmh.
Et en fait, j'ai eu besoin d'aide pour freiner et je suis allée faire une psychanalyse.
Ouais.
Ouais. Parce qu'il y avait un état d'urgence émotionnelle et que j'avais une quête identitaire assez jeune aussi sur comprendre comment moi dans un terreau familial aussi aimant, j'ai une famille d'artistes, j'ai mon frère qui est artiste, j'ai ma mère, j'ai mon père, ils sont hyper aimants, ils sont hyper encourageants. Alors famille modeste, mais alors le terreau magnifique, vraiment. Et en fait je me dis, mais j'ai pas le droit d'être mal. Pourquoi comment ça se fait qu'avec tout l'amour que j'ai eu, je suis aussi fragile, mais ou aussi fragile au sens, moi j'étais épuisée, j'avais plus confiance, tu vois, ça se manifestait du coup par des crises d'angoisse, et donc c'était ingérable parce que du coup j'étais dans le métro, j'étais en mode mais je respire plus, donc tu vois, c'était horrible, quoi. Enfin, de toute façon, quiconque avec une crise d'angoisse sait que c'est atroce de suffoquer, mais c'est une métaphore aussi de l'asphyxie. Et enfin, en tout cas, ça l'était pour moi. Et cette asphyxie, justement, le fait de me lancer en freelance, ça a été une prise d'air.
Oui.
Voilà. Parce qu'en fait, j'avais pas compris que la liberté, pour moi, c'était ça, la sécurité. C'est que le fait de pas avoir d'obligation au travail, de pas avoir d'horaire, de pas être obligé d'être là tous les jours. Ça, pour moi, c'était asphyxiant, en fait. Il y avait rien de moins écologique. Ça, c'est un mot très coaching. L'écologie de la personne. Il y avait rien de moins écologique pour moi que de me foutre un CDI. Je suis une personne qui a, moi, j'ai renouvelé une période d'essai pour pas être en CDI. Je suis ce genre de personne.
C'est drôle.
Cette thérapie m'a beaucoup aidée à, je suis restée 6 ans et j'ai arrêté quand on a déménagé à Bordeaux.
Ok.
Ouais, un déménagement à Bordeaux qui était vraiment la réjouissance, une espèce d'excitation, de la nouveauté. On avait commencé par louer une échoppe avec un jardin et juste déjà revivre dans une maison, tu sais. Il y a un rapport à l'enfance aussi. C'est quelque part, quand t'es enfant, tu t'éloignes de l'enfance, tu vois, tu veux devenir un adulte, et puis quand tu deviens un adulte, tu cherches ton enfant intérieur, des fois.
Mais c'est trop ça. C'est trop ça.
Tu passes ton temps à t'en éloigner, puis après, tu passes ton temps à t'en rapprocher. Et après, tu meurs.
C'est ça. Oui, c'est le cycle de la vie.
C'est le cycle de la vie. Ouais. Non, voilà. Donc, du coup, ça m'a stimulé à nouveau, créativement, parce que, oui, en fait, ben, j'ai grandi dans les montagnes, dans des villages, dans plein d'endroits en fait très nature, très brut, qui donne de l'espace à l'ennui, qui donne de l'espace au rien, qui donne de l'espace au bruit au son environnant, aux saisons. Tu vois, des choses où j'avais l'impression, justement, dans une grande ville, avoir moins. J'avais moins la notion du temps.
Ouais.
Et j'ai apprécié reprendre cette temporalité-là, reprendre ces cycles-là.
Ouais.
Et que la lumière change, et que je puisse être, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une maison à nous, qu'on a façonné parce qu'on est parti de rien et on a travaillé avec un super archi qui nous a fait un super truc. On a un beau jardin, on voit des pins parasols de chez nous.
J'ai vu, c'était top.
Et ça, voilà, c'est bon. Enfin, tu vois, c'est tous les matins, tu te réveilles dans ce calme et dans cette sérénité. Ça me stimule la créativité là où avant, comme tu disais, tu vois, justement sur le aller à la rencontre à Paris, les expos, les gens, etc. Et puis après, tu te crées un réseau de d'amis et puis de gens passionnants, mais avec qui tu restes connecté, en fait.
Bien sûr.
Et en fait, tu t'emmènes ça avec toi. Donc, on a emmené nos valises à Bordeaux de tous ces gens trop cool. Et puis, on a continué, mais différemment.
Oui.
Voilà.
Oui, je me souviens, on parlait aussi de quand on est devenu parent. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'avais ce que tu disais là, justement, cette énergie d'aller voir plein de gens, d'aller à des expos, à des vernissages. Et de toujours très relationnel, parce que quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne, si ce n'est ma chérie et ses quelques potes, mais personne dans le milieu professionnel dans lequel j'ai évolué, etc. Et je me souviens que quand on a voulu notre premier enfant, notre fils, il y avait ce désir justement de cette nidation, tu sais, de revenir à quelque chose d'un petit peu plus simple et élémentaire.
Oui.
Et que aujourd'hui, enfin, moi, j'ai toujours voulu être dans une, oui, c'est ce que je disais en off, ça me revient là, que j'ai grandi dans une petite ville modeste en Belgique.
Ouais.
Et que moi, les villes qui me faisaient rêver, c'était genre Lille ou Bruxelles, tu vois, j'habitais près de la région, près de la frontière. Et puis, du coup, Paris, c'était un peu là où il y a toute, la mecque de l'illustration, l'édition, la presse, les agences, etc. Et bon, il s'avère que Madeleine habitait là, donc c'était logique de la rejoindre. Je pense que si elle habitait ailleurs, j'aurais été ailleurs. Mais puis Paris, donc c'était logique. Et puis là, aujourd'hui, c'est sûrement ce que tu as vécu, que quelque part, à un moment donné, quand tu as consolidé cette cathédrale ou que tu arrives à ce moment où tu veux chercher ton enfant intérieur ou j'en sais rien, et puis c'est genre, j'ai besoin de respirer. Mais c'est contre-intuitif parce qu'on a toujours l'impression qu'on a besoin... Enfin, on a beaucoup l'impression, j'ai l'impression d'être dans ces grandes villes où tout bouge. Mais aujourd'hui, je me sens submergé. Je me sens submergé de tous ces stimuli dont tu parlais tout à l'heure.
Mais c'est cette limite, en fait, qui s'impose. Tu vois, j'ai l'impression, à un moment donné, tu vois, que ce déménagement, est-ce que c'était un choix ou une nécessité? Et c'est ça, en fait. Après, on dit que le fait d'accepter, c'est déjà un choix. Tu vois? Tu acceptes, c'est pas de juste rien faire. C'est Manu qui m'a appris ça. Tu vois, il fait vachement de méditation. Et le fait que, qu'ils disent, ben, accepter que ça aille mal ou accepter de penser ça.
Ouais.
l'accepter, t'as décidé d'accepter. J'ai pas subi le truc. Donc moi, bon, ok, j'accepte qu'énergétiquement, ben, j'ai besoin d'être peut-être plus à distance, qu'il y ait plus d'espace autour de moi pour arriver à bien fonctionner. Mmh. Et de quoi j'ai besoin pour bien fonctionner? Ça, c'est une question qu'on pose beaucoup à nos clients.
Mmh. Et toi, c'était notamment...
Moi, c'était l'espace au sens... J'ai une passion pour les conversations, en fait, pour les gens, pour tout ça. Mais il fallait que j'arrive à couper. Donc, il fallait que je m'impose plus de pas d'humain, quoi, tu vois, autour de moi.
Ouais, te ressourcer pour pouvoir retrouver l'humain derrière.
Mais oui, bien sûr, pour être plus en présence, plus en qualité, de pas être en auto-parasitage ou moi-même parasitante. C'est ça.
C'est intéressant. C'est une mini parenthèse,
ouais.
Mais ton rapport aux réseaux sociaux, tu sais, vu que tu es quelqu'un de très relationnel,
oui.
Qui a ce désir de connexion,
ouais.
C'est marrant que t'es pas très sur les réseaux. Et c'est peut-être justement le fait d'avoir besoin de t'en écarter pour te ressourcer. Parce que pour beaucoup, on a cette ambivalence avec les réseaux sociaux.
Je sais.
Enfin, moi, je me sens mieux quand je suis pas dessus.
Non, mais je te rejoins.
Ouais.
En fait. Il est vrai qu'il y a un énorme décalage entre les projets qu'on fait à l'atelier. Je dis on parce que je travaille avec Charlène Massé, ouais. Qui est une collaboratrice que j'ai depuis très longtemps, qui a ses propres clients aussi, mais avec qui je collabore, qui est Rethèse, qui est à l'île de Ré, qui est une ancienne étudiante à moi de l'ECV parce que j'enseigne à l'ECV Bordeaux. Je suis intervenante aussi depuis que je suis à Bordeaux.
Ouais.
Et c'est une fille incroyable. Voilà, Charlène, qui est juste, je l'appelle le... c'est vraiment elle a une puissance cette fille, c'est incroyable, c'est une main de fer dans un gant de velours, quoi. Tu vois, et elle est ça fait partie des étudiants où il y avait ce potentiel, tu vois, à développer, au sens pas moi le développer mais lui dire hey, mais il est là. Et tu sais ce que c'est que le talent? C'est rigolo, le talent c'est une monnaie à l'origine. Et
ah oui.
Et c'est une monnaie, en fait. Et le talent, je dis souvent aux étudiants, vous avez des qualités, mais le talent, c'est le fait de les faire fructifier.
Mmh.
Voilà. Et en fait, cette Charlène, étudiante, elle avait des 12 milliards de qualités, et il y avait cette espèce de... Enfin, je me permets, j'en sais rien. En tout cas, je lui voyais, en tout cas, des milliers de qualités. Et aujourd'hui, elle est ultra talentueuse. Dès qu'elle fait un truc, elle le fait, mais bien, quoi. Enfin, elle le sait même pas bien. Je rêverais même pas à le qualifier.
Mmh.
Voilà. Elle est merveilleuse. Petit aparté. Je sais plus ce que je racontais.
On parlait des réseaux sociaux.
Des réseaux sociaux, ouais. J'aime bien partir. Oui, en fait, c'est très important. C'est-à-dire que ce que je me suis mise récemment, et puis là, je dois décider d'aller nourrir ce Instagram en particulier. Dans le sens où, je suis très communicante avec les gens tu l'as vu toi-même. Enfin, tu vois, j'adore regarder, j'adore communiquer, j'adore me nourrir. J'adore Instagram. J'ai pas de souci avec ça. Enfin, les gens que je suis, je trouve que c'est chouette. J'ai pas de problème avec les égos des gens. Non, si je les aime pas, je les suis pas.
C'est ça.
Je les observe pas de loin. En tout cas, oui. Je me réconcilie non pas avec le fait de. Je me réconcilie avec le risque de montrer ce qu'on fait. Voilà.
Ah oui.
Voilà, je me réconcilie avec ça, et je dois même avouer que quand j'ai fait ma formation de coaching, on a tous bénéficié d'un coaching. Enfin, on a fait ce qu'on appelle du coaching entre nous, quoi, tout simplement. Et j'ai quelqu'un, Denis, qui m'a accompagné hyper bien. Et on a parlé de ça, justement, de cette espèce de frein très fort que j'avais de pas arriver, tu sais, ouais, à juste poster un truc qui va être entre guillemets là et qui va juste pas disparaître. Alors que tu peux le supprimer, hein. Mais même j'arrive pas. Donc là, tu vois, c'est un gros effort de lâcher prise. Je suis plus à l'aise avec les stories au final, qui sont diverses et variées,
oui.
Que parce qu'il y a cette espèce de furtivité. Et peut-être que plein de gens sont très à l'aise avec ça pour ça. En tout cas, ouais, si c'est important, j'aime bien, j'adore. Ouais. Je vais faire des efforts.
Mais justement, non. Enfin, c'est marrant parce que on sent dans nos métiers cette sorte d'injonction de, il faut que tu montres. Et c'est vrai que si on l'enlève juste de cette réflexion de l'aspect professionnel, oser montrer et quelque part se mettre sous le regard des autres, voilà, c'est pas forcément simple. Et je pense que c'est partagé par beaucoup et beaucoup de personnes aussi qui débutent, qui se disent, je vais pas montrer parce que c'est pas assez abouti, parce que qu'est-ce que les gens vont finir, etc. Donc il y a cet aspect de la réflexion là. Mais de l'autre, moi je sais que les réseaux sociaux sont un outil de partage, de promotion, de connexion. Mais je remarque que je me sens mieux quand je poste pas.
Ouais.
Parce que j'ai l'impression d'être justement.
J'ai pas cette expérience parce que je poste. Non mais là ça y est, maintenant je m'y remets.
Mais ça se trouve peut-être. Mais... En fait c'est pas dire mieux, mais peut-être qu'au final c'était la meilleure part, tu sais, de pas se sentir obligé de devoir le faire. Et quelque part, parce que moi je sais que...
Mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec le fait de pas avoir besoin de partager pour travailler? Est-ce que c'est pas ça?
Si,
parce
si,
que
bien sûr.
Moi je crois que je me... Il y a un peu de ça aussi. Enfin, il y a même beaucoup de ça.
Oui, et ça, c'est un luxe qui est fantastique. Oui. Qui est
c'est beau. Un vrai luxe, absolument.
C'est un vrai luxe. Mais c'est parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime partager.
Oui. Mais humainement, énormément.
Ouais. Mais comme moi, le podcast, tu vois, là, on a un vrai échange humain.
Ouais. Bah, d'ailleurs, ça m'est bien plus naturel. Enfin, naturel, c'est pas le mot, mais ça me fait plaisir. Non, mais j'ai avant de venir là, j'avais hâte de venir discuter. Tu sais, c'est quelque chose qui est stimulant, mais au sens tranquille.
Bah, je pense que t'es obligé comme ça si tu accompagnes des personnes. C'est obligé si t'aimes pas les gens et que t'as pas envie de discuter ou du moins d'écouter.
Et je me découvre très auditive.
Ouais.
Tu vois, sur les sens. On parle beaucoup enfin, tu vois, c'est visuel. Et j'ai l'impression, c'est presque limitant à des moments.
Oui.
Et de ce fait, d'où le projet avec Nadège Guibert, du coup, avec qui je monte ce projet de podcast aussi, là, dont Bouge ton zèbre. on aura peut-être deviné, on va parler de la douance. Mais, Bouge ton zèbre, bouge ton cul, c'est la mise en action. Qu'est-ce que c'est que le coaching? C'est une mise en action. Et du client, en fait, c'est le fait d'être concrètement en train de faire au bénéfice d'eux.
C'est une mise en abîme de toi aussi, quelque part, parce que il me semble, si je raccroche les wagons, c'est que quand tu as été à Bordeaux, la parentalité, la remise en question, le calme, et tu t'es formé à ce moment-là.
Oui.
Et donc, du coup...
J'ai eu le temps d'y penser à qu'est-ce que je pouvais faire. C'est vraiment ce temps d'introspection.
Qu'est-ce que ce temps d'introspection et où tu as bénéficié toi-même aussi d'un coaching? Tu en as déjà dit à droite à gauche, hein, quelques-unes, mais qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi ou qui a été décisif pour la suite? Tu vois, ne fût-ce que bouge ton zèbre.
Ouais, justement, en fait, que... J'ai toujours eu peur de déranger en allant, tu sais, des fois, je sais pas, j'ai rarement en fait été dans des vernissages, j'en parlais, mais comme quelqu'un qui va voir une expo, mais aller vraiment connecter, réseauter, tu vois le mot réseauter,
c'est dégueulasse. J'aime pas ce mot.
Pas beaucoup de gens ne l'aiment. Relation. J'ai toujours eu peur de déranger, tu sais, de. En fait, à chaque fois, mes clients on me dit, mais comment tu fais pour avoir des clients aussi? Tu sais, des marques qui sont chouettes, enfin moi que j'aime bien, comment tu fais? Bah, je dis, bah, ils m'ont appelé. Mais tu sais, ça fait genre, ils m'ont appelé. Mais c'est juste, en fait, j'aurais jamais osé les appeler. J'aurais jamais osé les déranger. Enfin, moi, je suis la plus nullissime en démarchage, quoi. Mmh. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, la rencontre, tu vois, vraiment, pratiquement, j'ai l'impression tout d'un coup qu'il faut presque une rencontre amicale à des moments. Mmh. C'est comme si mes clients choisissaient aussi dans cette relation-là. Alors, il y a la limite professionnelle, c'est pas le souci, ça n'empêche pas. Mais il y a une connexion qui parfois touche à l'intime. En tout cas, de mon côté, je pose pas la question. Mais moi, je fonctionne comme ça, au cœur.
Et ça t'a été révélé du coup pendant ce temps d'incubation de...
Ouais, en fait,
c'était surprenant pour toi.
Ce qui était surprenant, bah, j'étais en résistance, même en refus. Le moche mot de réactance qui veut dire refus, c'est très laid aussi. Qui dit vraiment. Enfin, en fait, je refusais de. Tu sais, j'étais un peu dans. Non, mais moi, je je le fais pas parce que j'ai pas besoin et tout. Non, mais en fait, j'ai hyper peur, c'est tout, en fait. Et le coaching, ça m'a aidé à dire tout va bien. Tout va bien. Tu n'es pas à l'aise. Tu as peur de déranger, mais c'est ok. T'es ok avec le fait de pas trop aimer déranger, enfin, ou de parler de toi au grand public. Ok, ça va. C'est ok. Est-ce que ça te va à toi-même? Ouais, ça me va. Est-ce que quand même, tu te dis, il y a des moments, ça va, tu pourrais faire des efforts. Ouais, ça, je peux le faire. Quand t'as aimé une pièce chorégraphique et que le chorégraphe est à 2 mètres de toi, que la personne avec qui tu discutes, que tu connais, est un de ses anciens meilleurs amis, et ben que t'aimerais trop aller discuter avec lui, mais que tu t'autorises pas à y aller parce que t'as pas envie de te déranger, c'est un peu bête.
Oui.
C'est un peu bête et c'est tout moi.
Mais c'est fou parce que j'imagine que tu le sais bien évidemment, mais
ouais.
On soupçonne pas ça chez toi.
On soupçonne pas parce que dès lors qu'il va y avoir un rapport au travail et peut-être à la potentielle collaboration, je vais me dire, il va croire que je suis pas authentique.
Oui, oui, oui.
Et donc en fait, tous les projets souvent qui se font, c'est quand en fait je l'ai pas vu venir. C'est un peu ouais. Genre hey.
C'est organique.
C'est organique, ouais, totalement. C'est énergétique. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de.
Sur voilà. Le podcast, on parle souvent de jouer le jeu du sans-enjeu. En fait, quand t'es dans une certaine intentionnalité,
ouais. Y
a un truc pas naturel qui, c'est un petit peu trop intentionnel. L'intentionnalité, c'est une bonne chose.
Ouais.
Mais si c'est genre, on doit peut-être faire quelque chose ensemble, ça met une gêne. Que quand t'es...
Mais ouais, mais le truc, c'est que j'avais peur que j'étais trop excitée de partager, mais c'était super, ça, j'ai adoré ce truc, etc. Et j'étais là, non, mais je peux pas lui dire parce que de toute façon, il va croire que c'est parce que je veux travailler avec. Alors que.
Pas forcément. Ou peut-être.
Mais peu importe, en fait. Et là, ça m'a permis de prendre conscience de ça. De tout va bien. Tu peux aller dire aux gens que tu les aimes, même si tu les connais pas ou que t'aimes leur travail, et ça va en fait. Il va pas penser que ton intention elle est mauvaise ou mal placée ou opportuniste. Tu sais, ce fameux opportunisme avec lequel on n'est pas copains en général.
Et tu arrives à rester dans cet état de it's okay?
Ben ça se travaille. Hein.
Ouais.
C'est ce que j'y arrive. Non, j'aurais pas cette. Je pense pas encore. Mmh. Non, c'est assez récent.
Même le fait aujourd'hui de mettre en avant ton activité, les différents services que tu offres et tout, tu me disais qu'avant tu n'osais pas forcément, ben c'est aussi un fruit de ça sûrement d'être proactive.
Mais en fait, si je sens un besoin du client verbalisé, c'est-à-dire qu'il verbalise un besoin, il va dire j'ai besoin de une identité, et puis il dit ah mais j'ai un problème sur ce projet, j'aimerais bien valoriser ça mais je sais pas comment, bah je dis bah tu pourrais faire comme ça, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Il dit ah mais super, mais j'ai l'impression que tu te projettes bien. Je fais oui, d'ailleurs on pourrait prendre telle personne. Il fait ok, combien ça coûte Julia? Bah ça coûte tant, bah faisons-le.
Ouais.
Ça c'est comment je travaille.
Ouais.
C'est j'ai en fait peut-être que une des qualités professionnelles que j'ai, c'est alors on a la douance, parle beaucoup de la pensée arborescente, mais il y a aussi cette connexion, tu vas en parler des systèmes tout à l'heure.
Ouais.
Je sais pas comment ça se passe dans mon cerveau, mais en tout cas j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, pas besoin de tout comprendre. Les solutions, je sais, ça c'est, pour moi c'est pas compliqué, en tout cas ça m'est plutôt simple d'imaginer tout de suite des solutions, au sens ouais bon, comment on pourrait s'y prendre, à qui on pourrait demander, parce que je m'inclus dans le système parce que je suis DA et que je pourrais peut-être y répondre, mais pas forcément. J'ouvre à tellement de potentiel que du coup, le marché, bah oui, aujourd'hui j'ai un atelier qui me permet de sous-traiter, de faire travailler d'autres gens. Ouais. Donc, ok, moi ça me va très bien. En fait, j'ai pas besoin de faire moi-même.
Bah oui.
Toujours, pas du tout.
Puis c'est fantastique de pouvoir, comment dire,
déléguer,
voilà.
Ouais. Faire confiance aussi. Tu sais, déléguer. Et si on le remplaçait un peu par faire confiance, faire confiance. Enfin, se faire aider, en fait. Enfin, vraiment, que les gens contribuent et que bien sûr, en fait, qu'ils vont bien comprendre ce que tu veux. C'est, enfin, tu vois, cette confiance. Je fonctionne beaucoup comme ça maintenant.
Ouais.
Ouais.
Oui, pareil. Et je sais que parfois, certaines personnes peuvent avoir une certaine inquiétude.
Mm-hmm.
Genre, oui, mais si tu te fais bouffer, si ceci, c'est cela. Je dis, mais vous savez, en partant du principe de faire confiance de base, pour une fois où tu te fais entuber, t'as 9 fois où
exactement.
En fait ça se passe super bien. Alors je dis mais moi je suis prêt à me faire entuber 1 fois sur 10 pour toutes les belles choses qui découlent de moi je vis vraiment dans un mindset de il y a en abondance pour tout le monde et c'est pas live or die, tu vois.
Ah mais en plus
c'est horrible, la créativité ne peut pas se développer quand on est en mode survie.
Ah mais non, et puis on réussit parce qu'on est bon, pas parce que les autres sont mauvais.
Bah oui.
Voilà. Donc c'est pas en comparaison à, c'est vraiment une élévation personnelle en fait. C'est comment je m'élève moi-même, comment des professeurs arriveront à m'élever, comment mes parents m'élèvent. Enfin, c'est vraiment la, voilà, cette prise d'air créative.
Ouais, ouais c'est.
Ouais.
Et tu m'avais dit par le passé que tu mettais aussi en pratique tes méthodes de coaching avec tes clients. En tant que tu c'est là où dans l'interview both worlds comes as one. Tu vois ce que je veux dire?
La fusion.
Ouais, comment cette fusion opère? Ouais.
Comment concrètement? En fait, le coaching c'est très méthodique. Au sens où c'est des questions qui pourraient être par si tu dis j'ai besoin de luminosité dans ce projet, moi je te demanderais mais qu'est-ce que t'entends par luminosité, cette qu'est-ce que t'entends par, c'est très évocateur de la réalité de l'autre justement. Autant ça marche sur l'identité de la personne, tu vois, je suis très ouverte, vous êtes ouverte comment, racontez-moi. Petite blague. Mais ça marche sur des projets créatifs. Qu'est-ce que t'entends par classe? Qu'est-ce que, tu vois, le mot classe que tu peux entendre un peu comme ça, galvaudé. Qu'est-ce que t'entends par tu vois, le bobo? Le bobo, moi j'ai une représentation du bobo, mais toi c'est quoi le bobo pour toi? Et le fait est qu'aujourd'hui, je peux plus, tu sais, c'est foutu, une fois que tu sais un truc, après, une fois que t'as une mécanique de penser que t'as compris comment un système fonctionnait, les sciences humaines et cette méthodologie-là, je peux plus rien écouter sans invoquer la précision dans ma tête. Alors, je pose pas des questions à toutes les phrases, parce que si je dis, qu'entendez-vous à barre, à tout bout de champ, ça va pas
oui,
marcher.
Bien sûr, ouais.
Ça va être un petit peu relou.
Absolument.
Mais, ça permet de lever des lièvres, en fait. Et là, je m'interroge sur le fait que cette expression existe.
Oui, attends, les lièvres, ça veut dire poum, on y va.
Non, ou... le lever des lièvres, c'est quand tu lèves des problèmes. Est-ce que c'est ça?
Je sais pas, c'est toi qui me dis.
Eh ben, je sais pas. En tout cas,
nous ne savons pas ensemble.
Nous ne savons pas ensemble.
And it's okay.
It's okay. Éviter des problèmes, pour parler simplement. Des problèmes de compréhension du brief. En fait, le coaching, c'est très intéressant pour préciser un brief, parce que questionner les contours ou ce qui ne fonctionne pas peut être aidant. Par exemple, si vous avez si un client va généraliser, rien ne va, tu sais l'espèce de il commence à transpirer, il commence à péter un câble, il te parle mal parfois parce qu'il est stressé. Ça, c'est l'ego. Fais en sorte, prends conscience que c'est pas toi,
c'est lui. Mmh.
Mais ça, petit aparté sur l'ego. Donc pas prendre pour soi que le fait qu'il aille mal, mais de dire mais OK, je te sens tendu. Il y a quelque chose qui va pas ? Déjà juste ça.
Ah oui. Juste pour le dire,
juste
dans les yeux.
Juste permission de se dire, OK, sur le projet, il y a quelque chose qui va pas, parce que des fois, en tant que designer, en tant que créatif, on est en attente, tu vois, d'un débrief ou d'une réponse, et on va avoir quelqu'un qui parfois va montrer des signes d'anxiété ou de nervosité ou d'agressivité, mais qui ont rien à voir avec nous, en fait. Et rien que ça, l'utiliser dans mon relationnel au client permet de désamorcer tout un tas de parasitages. Mmh. Non, écoute, en fait, non, mais excuse-moi. Non, mais j'arrive, je suis désolée. Mon fils, en fait, il a 39. Du coup, ils le prennent pas à la crèche. Je me tape une semaine de confinement. Là, en fait, je suis désolée. Rien à voir. En fait, ils ont adoré. Bon, ok, tu vois. Rien que le fait que tu sentes et que tu t'autorises à dire ça va, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je te sens que est-ce que tout va bien? Ne pas partir du principe que ça a un rapport déjà avec le projet. Ça, c'est sur l'aspect un peu justement de débroussaillage, on va dire. Et ensuite sur la question de plus spécifique du projet, et ben au niveau du débrief, quand les gens sont peut-être approximatifs, etc., on va décortiquer, on va tirer le fil pour comprendre. Ok, donc là vous trouvez que on est un peu corporate, alors que vous voudriez une image un petit peu plus branchée dans votre projet. Ok, et alors vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi en fait? Ben, moi j'en pense qu'on va jamais y arriver. Et alors on n'y arriverait pas, pourquoi? Ben, parce que en fait les délais sont trop courts. Mais alors ils sont trop courts pour quelle raison selon vous? Mais en fait, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. En fait, le mec, il a pas écrit les textes. On les aura jamais à temps. Donc, en fait, toi, tu crois que t'as un problème de designer, puis en fait, la nana, elle t'explique que les contenus, de toute façon, le projet, il est complètement fucked up et que ça n'a aucun rapport avec toi.
Ouais.
Bah, ça, c'est une mécanique, en fait, de questionnement. Mmh. Et si, je te donne là, je viens d'inventer un exemple. Tu vois, je savais pas où j'allais atterrir, mais ça marche. Ouh, c'est bon, ça marche. Ça marche pour te dire que, pars pas du principe que le problème vient du design que t'as fait, ou il peut venir d'une mauvaise compréhension du brief, auquel cas c'est facile de dire quand tu précises un propos ça va fonctionner, mais il peut aussi venir de le projet va complètement capoter, mais c'est exogène, ça dépend pas de toi en fait. Ouais. Donc maintenant, peut-être que tu aideras ton client à bouger une deadline,
ouais,
à arriver à dire à son boss qu'en fait le prestat qu'il a choisi n'était pas fiable, et peut-être que toi ta contribution elle sera là.
Il faut oser, avec beaucoup d'empathie, oui, et de méthodologie, remettre en question,
questionner. Mais ben ça c'est parce que, enfin, aujourd'hui ça m'éclaire parce que, enfin, ça c'est clair pour moi. C'est pas ça m'éclaire, mais c'est clair pour moi parce que je l'ai appris. Enfin, je l'ai appris. En tout cas, j'ai appris une méthode du coaching professionnel qui est donc l'accompagnement au changement. C'est le terme un peu francisé.
Ouais.
Au changement, pourquoi? Parce que on est dans une dynamique de mouvement, en fait. Et on va vers quelque chose de futur. On n'est jamais dans la thérapie au sens du passé. On va pouvoir questionner le passé sur des lignes de vie professionnelles dans votre parcours pour identifier des moments de succès, des moments de faille, pour étudier des comportements associés, ok, qu'on peut reproduire ou ne pas reproduire, tout dépend,
ouais,
tout dépend. Mais c'est très dans le futur et dans quelque chose de désiré en fait, de désiré, de voulu. Et nous, on va questionner, pas forcément pourquoi vous le désirez, mais est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous conscientisez que ce vers quoi vous allez, ça a du sens, mais ça va répondre à votre besoin? C'est pour ça que la demande initiale d'un client, c'est pas forcément la demande précisée. Quand on va questionner, tu vois, je donne souvent cet exemple de quelqu'un qui vient en disant, j'ai besoin d'argent, là, il faut vraiment que ma boîte, il faut que je développe financièrement ma boîte. Ok, très bien. Et racontez-moi, vous allez faire quoi avec cet argent? Bah, avec cet argent, je peux partir en voyage, par exemple. Ouais, partir en voyage. J'y vais plus trop. Ok, en voyage. Et vous partiez souvent en voyage? Enfin, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire? Bah ouais, je pars souvent, en fait. Enfin, je partais souvent avec ma femme. D'accord, votre femme. Et ça va?
Non.
Bah en fait, j'ai l'impression qu'elle m'aime moins parce que j'ai moins d'argent. Et en fait, moi, j'ai besoin d'amour.
Ah oui. Et puis il y a une boucle, oui, bien sûr.
Ouais. Tu vois, c'est ça en fait. C'est la demande initiale. Est-ce que ça sera la demande clarifiée? Pas forcément. Et ton boulot et ce boulot-là de faire conscience. En fait, c'est cet effet miroir. C'est ne pas dire, ah, t'as vu, moi en tant que coach, je t'ai amené la solution, mais pas du tout. Moi, j'ai juste posé des questions en fait. Et ces questions de clarification sur le travail du designer ou du créatif ou du chef de projet ou de la relation aux gens en fait, au système, l'entreprise, et ben ça peut permettre aussi d'identifier des problématiques qui sont systémiques, des problématiques, tu vois, vraiment de gestion, des problématiques de compétences, des problématiques de plein de choses, de gestion du stress. On va étudier en zoom aussi la bouteille du stress, tu vois, sur les stresseurs. Et est-ce que le stress, vous avez d'une échelle de 1 à 10, vous voulez être à combien? Bah moi je suis à 8 et j'aimerais être à 6. OK. Mais mettons qu'en fait la personne se sente pas assez stressée. Pourquoi moi en tant que coach, je pars du principe que la personne elle voudrait baisser son stress. Elle peut peut-être l'augmenter.
C'est vrai.
Voilà. Et bah ça c'est, tu vois, c'est on essaie d'ouvrir aussi Ouais, c'est en fait on travaille avec les lunettes de la personne, quoi, et c'est pas à moi de décider si elle doit baisser son stress.
C'est quoi la différence entre, enfin la limite entre la thérapie et coaching, parce que j'imagine que il y a des ressemblances.
Alors justement, en fait, nous on travaille pas sur des pathologies déjà, enfin ça c'est très clair, hein, sur ce qui va être l'état de la dépression par exemple, parlant de quelque chose de très connu. On n'est pas en fait dans tout ce qui est résolution d'un mal-être ou d'un pathos, tu vois, vraiment je te dis qu'il serait plus orienté sur plutôt des questionnements identitaires passés, de souffrance, de l'enfance, de traumatisme, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu travailles avec un thérapeute, tu travailles pas avec cette notion d'objectif. Alors tu veux te sentir mieux, mais ça c'est un fait. Peut-être que des gens vont voir un thérapeute pour se sentir mal et pour peut-être chercher le pathos pour être artiste, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas du tout sur ce terrain-là et on n'est pas sur le passé. C'est vraiment, il y a beaucoup cette ligne du temps aussi.
Ouais.
Et je sais pas si c'est très clair.
Si. Non, si. Bah, la thérapie.
Et vraiment la notion d'objectif quantifiable, mesurable et atteignable et positif pour la personne écologique, c'est très très important. C'est vraiment essentiel.
Et il me semble qu'il y a, je pense que c'est toi qui me l'avais dit, qu'il y a deux sortes de coaching. Il y a celui où tu écoutes, enfin où tu écoutes presque 90% et tu travailles avec le système de la personne. Et puis il y en a un autre qui pète un petit peu plus. Moi, c'est l'image que j'ai, genre Tour de France, le mec sur son vélo, et puis t'as le coach qui est là avec sa bouteille d'eau, genre vas-y Gérard, tu peux y aller.
Oui. Et pas du tout.
Ouais, mais c'est deux écoles ou je sais pas.
Alors je connais pas les autres. Toute honnêteté, je connais pas vraiment les autres écoles, mais en tout cas ce coaching là, d'encouragement, de dire tout va bien se passer. En fait, moi, j'en sais rien. J'en sais rien si tout va bien se passer. J'aimerais dire aux gens tout va bien se passer, tu sais, mais c'est pas notre rôle et c'est surtout pas vrai. Pas vrai au sens aidant, utile. Est-ce que c'est pas dangereux de dire à quelqu'un tout va bien se passer?
Ouais.
Tu vois, tu sais pas ce qui se joue là.
Non.
Et
quand ça se passe pas bien, comment tu fais, toi?
Alors, quand ça se passe pas bien, nous, on est supervisés. Alors, quand ça se passe pas bien, qu'est-ce que t'entends par pas se passer bien?
Oui,
c'est quoi l'exemple que t'aurais?
Quand la personne vient vers toi avec un problème spécifique et qu'il avait un objectif futur et qu'en réalité, au fur et à mesure du process, en fait, ça va pas dans le bon sens. Enfin, son état s'empire par rapport à la.
Il rétropédale.
Ouais, il rétropédale, ou peut-être que le processus met en lumière des choses chez lui qui font que, je sais pas, que.
C'est alors plusieurs.
Enfin, parce que ça doit pas
ouais,
être
si,
évident,
si, c'est très. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand on sent justement que ça sort de nos compétences. Ok, du spectre de notre métier, on va s'interroger soit
bah oui.
on demande une supervision souvent à nos pairs, à des gens qui sont qu'on paye, hein, pour avoir une consultation, pour avoir un regard sur ce qui est en train de se passer avec notre client. C'est très important et c'est ça qui fait aussi qu'on reste clairvoyant quand on manque, tu vois, de solutions, c'est d'aller demander conseil à des coachs professionnels qui sont seniors et qui vont nous superviser sur des cas. Et si on a l'impression tout d'un coup que notre client il a une souffrance justement qui se jouerait peut-être plus dans une qui pourrait peut-être éventuellement résoudre ça avec une thérapie ou autre, alors on va se dire ok, vous en pensez quoi de votre processus, comment vous vous sentez, tu vois, en fait c'est aussi mettre en position méta le client, de tu vois, extérieur à lui-même, en disant ok, vous, déjà juste observons, vous ressentez quoi, parce que à nouveau, dire à l'autre, moi, je pense que vous auriez besoin d'une thérapie plutôt qu'un coaching.
Ouais, là, tu t'imposes de nouveau.
Waouh. Bah, tu t'imposes et puis, est-ce que c'est pas juste violent?
Ah ouais, non, grave. Grave.
Quelle horreur. Enfin, je sais pas. On parle, tu sais, beaucoup du rapport collaboratif dans les métiers, mais en coaching, c'est ça, c'est la confiance qu'on a l'un envers l'autre. Est-ce que dans la relation que j'ai à l'autre, là, je parle même au sens large, est-ce que dans la relation que j'ai à l'autre, à un moment donné, je peux avoir cette phrase potentiellement blessante ou pas, mais en tout cas qui va risquer de faire naître une baisse d'estime de la personne, c'est quoi les risques en fait quand je dis vous auriez peut-être besoin de voir quelqu'un?
Bah ouais, non,
mais laissons-le déjà s'exprimer.
Ouais.
Ok, ben vous vous sentez comment? Bah franchement, en ce moment je pleure beaucoup. Je me sens mal. Je fais, et le coaching, alors, dans tout ça, ça répond, on a un objectif à atteindre, mais est-ce que votre sentiment, ça interfère selon vous avec le processus? Voilà, j'ai l'impression, en fait, que je suis bloquée, que ça peut pas avancer. Et vous avez pensé à quelque chose qui pourrait vous aider? Bah, j'ai une amie, ouais, qui a un super psychiatre, mais j'ose pas y aller. Ok, et tu vois, voilà, c'est juste, on va y aller tranquille, quoi. Ça, c'est aussi, je trouve, moi qui suis hyper speed. Speed, enfin, intense.
Ouais.
Intense. Je trouve que c'est l'éloge de la lenteur. C'est l'éloge de... T'es pas pressé de lui dire quoi que ce soit. D'ailleurs, tu sais pas ce que si tu penses est vrai. C'est la neutralité, la neutralité, la neutralité de ce que je pense. Et pourquoi ça interfère avec mon métier? Parce que, non pas que... On me demande de la neutralité, on me demande d'avoir de... Tu vois, d'avoir ma patte graphique, on me demande d'avoir de la personnalité, au contraire. Ouais, mais je suis pour l'instant, en tout cas, je me sens quand même au service de. Enfin, je suis clairement au service de mes clients. Moi, je suis là pour des fois faire plaisir, des fois répondre à un besoin, des fois mettre un coup d'épée dans l'eau. Et c'est très bien. Ça me va.
Ouais. Top. Je pense qu'on arrive gentiment à la fin. Est-ce que tu auras un petit mot, une note sur laquelle tu aimerais terminer ou inviter les gens à aller jeter un œil à ceci ou cela? Ça peut être externe à toi aussi. Hein.
Trop de choses.
Moi, tu choisis.
Trop de choses. Peut-être un message pour les étudiants. Mm-hmm. Ouais. Du coup, ouais, j'enseigne aussi. Je l'ai dit, mais c'est plus par rapport, tu vois, à ce qui se passe contextuellement et le fait est que bah, j'ai enseigné en distance et que quand bien même ils ont toute la volonté, tout le plaisir, toute la joie, tout ce qu'il faut, bah c'est très dur. C'est très dur, tu vois, ces études qu'on a eues pour plein de monde dans des écoles d'art, dans toute cette émulsion, tu vois, cette créativité et j'ai eu la joie de les retrouver en présence quand même récemment aussi, tu vois, il y a des choses qui ont pu se mettre en place et cette crainte en fait et cette peur qui est assez mondiale sur mais je trouverai pas de stage, mais je trouverai pas de métier, mais ce monde est foutu, etc. Il y a moi ce que j'encourage les étudiants mais peut-être les gens à faire, c'est vraiment ce pas de côté, de dire OK. Posons-nous la question. Est-ce que tous les secteurs vont mal? Est-ce que tous les secteurs vont mal? Tu vois, des métiers. Est-ce que toutes les agences de com s'écroulent? Est-ce que tous les freelances ne gagnent plus leur vie? Est-ce que tous? Non, je crois pas. Voilà. Juste déconstruire ces croyances ou ces peurs. Enfin, se poser ces quelques questions en disant, bon, mais, je vais y aller petit à petit. Je vais essayer de me dire que, si j'ai ma place, il y a une place. Et peu importe si c'est pas celle à laquelle je pensais au départ, le simple fait de mettre cette petite graine et de créer cette inertie, ça crée du mouvement. Donc moi, je dirais de rester en mouvement. C'est peut-être le mot.
Boom. Merci infiniment, Julia.
Avec
c'était
plaisir.
Fantastique. C'était ma discussion avec Julia Bernard. Si après ça, votre cerveau n'est pas en train de carburer à plein gaz, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, moi, ces discussions m'ont ouvert plein de perspectives nouvelles et j'en suis ressorti revitalisé. Alors encore une fois, merci Julia pour ton temps et ton énergie. Ça m'a grave fait plaisir d'échanger avec toi. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le dire directement à Julia en visitant son magnifique site internet et en la suivant sur les réseaux sociaux @atelierjuliabernard. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec un ami ou sur vos réseaux sociaux et me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir de vous lire et cela permet à ce podcast de monter dans les charts, dans les classements. Pour ne plus jamais louper un épisode, vous connaissez la chanson, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreatif.fr, vous retrouverez le lien en haut à gauche ou dans les notes de cet épisode.
Salut, je m'appelle Lucille Gomez, je suis autrice de BD et illustratrice et je fais partie du Patate Club. Patate Club, c'est-à-dire que je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon, avec plaisir et pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, j'aime son podcast, Sens Créatif, mais aussi, en tant qu'autrice, je sais à quel point il est précieux d'être soutenu par son public, puisque je le suis moi-même sur Tipeee pour une lettre que je dessine chaque mois. Enfin, le soutenir ne ruine pas, puisque le principe, c'est quand même que l'on met ce que l'on veut, ce que l'on peut, et que les contreparties commencent à 2€ mensuels. Donc, j'avais déjà plein de bonnes raisons de m'inscrire sur Patreon quand je l'ai fait, mais à l'époque, je ne soupçonnais pas que je vais en plus sortir de terre le Patate Club. Ouais. Sens Créatif, c'est un podcast. Ok. En plus, il y a un Discord. Ok. Le Patate Club participe au Discord. Ok. Mais le Patate Club a aussi un groupe WhatsApp. Ah, le Patate Club a plein de projets. Le Patate Club a des défis de dessin, des apéros, des causeries philosophiques, des blagues, des sujets de bavardage riches et variés. Enfin, c'est rempli de gens créatifs, hyper gentils, motivés. Honnêtement, ça fourmille tellement là-dedans que j'ai pas le temps d'aller vous tout voir. Enfin, c'est pas très grave, car désormais, le Patate Club, c'est aussi le Patate Club Podcast, c'est-à-dire un autre podcast bimensuel, animé en duo avec Laurent Bazar, et où il est notamment récapitulé les sujets abordés sur le Discord. Donc, comme j'ai pas souvent le temps d'y aller, là, ça me fait un débrief, et aussi un débrief du dernier épisode diffusé, et les coulisses, en fait, du podcast. Donc, faire de la BD et de l'illustration, comme je le fais, honnêtement, ou tout autre métier créatif, d'ailleurs, c'est hyper cool, je suis d'accord. Mais parfois, c'est aussi un petit peu solitaire. Alors, faire partie du Pâtête Club, c'est réconfortant, en fait. Stimulant. Même quand j'y participe pas, ce qui est souvent, ça me plaît quand même de savoir que des gens sont là, avec des préoccupations semblables aux miennes, prêts à me comprendre si je veux, si j'ai besoin, à m'écouter, me motiver, me donner des idées. Bref, comme le dit Jérémy, Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres. Donc, rejoignez-les si vous le voulez sur Discord, ce qui est une plateforme gratuite et ouverte à tous, ou dans le Patate Club. Vous retrouverez les liens dans les notes de l'épisode. Donc, à bientôt peut-être, et puis gardez la patate.
Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusic ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Cette semaine sur le Patate Club Podcast, on discute de choses et d'autres, mais surtout on débriefe de l'épisode de Sens Créatif avec Kylian Talin en compagnie de Thibaut Chaventon, graphiste alsacien, membre éminent du Patate Club sur Patreon et également membre du Cercle des Créateurs, la fameuse communauté initiée par Kylian. Alors, à quoi ça ressemble la vie à l'intérieur du Cercle ? Thibaut vous dévoile tout. Et ouais, allez, c'est parti. Refais là, Laurent, je pense que ça a coupé.
Ok, alors refais ton décompte alors.
3, 2, 1.
What's up, le Patate Club ? Eh, faut enchaîner, faut enchaîner.
Je pensais que Thibaut, il allait enchaîner et tout.
Non, c'est... Alors, comme vous voyez, on n'est pas encore super au point, mais je vous promets, au bout de 10 épisodes, on va arrêter.
C'est pas grave, ça fait une intro de... en bonne humeur, ouais. Tu sais, on fait des petites bêtises, on rigole.
C'est le principe de l'intro ratée.
C'est la gaudriole, ouais, c'est ça.
Ça va être un running thématique.
Exactement.
Il faut présenter un petit peu Thibaut, Jérémy.
Ouais, bah Thibaut peut se présenter tout seul.
Oui,
vas-y, alors, lance-toi.
Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 37 ans, j'habite en Alsace et je suis graphiste, et voilà, graphiste un peu couteau suisse, je fais du web, du print, et depuis l'année dernière, avant je travaillais avec des clients de toute taille et de tout type, maintenant j'aimerais vraiment me concentrer sur les indépendants que je dis être en quête de sens, c'est-à-dire qui quittent des métiers un peu traditionnel pour se lancer dans leur passion. Voilà.
Yes. Ok, très bien. Super intéressant.
Bienvenue Thibaut. Ça fait plaisir que tu sois avec nous.
Et merci. Du coup,
dites-nous, les gars, comment ça va ?
Thibaut, je te laisse commencer.
Eh ben merci. Comme un mercredi, moi je dirais, depuis le Covid, c'est un peu mon nouveau comme un lundi, tu vois, puisque les filles sont à la maison, donc faut un peu se les dispatcher avec ma femme donc, et travailler en même temps, c'est toujours un grand moment de bonheur.
Ah oui, elle regarde voilà. La Reine des Neiges, là, c'est ça, hein?
Non, j'ai carrément mis tout le monde dehors. Comme il fait beau, ils sont allés se promener. Comme ça.
Dehors, papa, il fait un enregistrement avec des copains. Allez hop.
Voilà, exactement, exactement. J'étais là, vous vous rendez pas compte, c'est pire que les grosses têtes. Il faut vraiment que je sois au calme. Alors, allez vous promener.
Cool. Et toi, Laurent, ça roule?
Ouais, ça peut rouler. Joachim a contracté le virus qu'il a ramené de son école.
Sympa.
Et donc il est positif. Donc du coup, on a passé les tests PCR et tout. Nous, on est négatif, mais nous voilà isolés. Moi, ça va rien changer, mais pour Géraldine, forcément, c'est jusqu'au 22 mars isolé dans l'appartement. Donc on porte des masques. Joachim mange tout seul de son côté.
Oh là là, la tristesse quoi. Ah,
c'est ouais. Très rigolo. Très rigolo. Vive le Covid. J'adore.
Mais waouh. Et ok. Et
il va bien.
Mais c'est fou que toi et Géraldine, vous ayez rien chopé quoi.
Et ben ça prouve que c'est possible. C'est possible en fait, même parce qu'on peut pas dire qu'on ait fait des gestes barrières de dingue avec lui, mais il y a pas de souci. Voilà, on l'a pas. Voilà.
Et ça le fait pas déprimer de manger tout seul dans son coin ?
Pour l'instant, il trouve ça rigolo, mais on verra au bout d'une semaine.
Oh, petit bout de chou.
Ouais. Et c'est combien de temps qu'il est censé rester comme ça ?
Quand t'es positif comme ça, c'est 10 jours. T'es 10 jours à la maison. De toute façon, ça sert à rien de refaire un test parce que le la charge virale, elle peut rester pendant 3 mois. Okay. Donc c'est inutile. Mais aussi, au bout de 10 jours, il n'y a pas de symptômes, les enfants peuvent retourner à l'école. Par contre, quand t'es cas contact, t'as les 10 jours plus 7 jours, en fait, de précaution derrière. Ce qui t'amène à 17 jours d'isolement.
Oh.
Donc il faut mieux le choper que d'être cas contact.
Putain, mais c'est incroyable.
Voilà.
D'accord. Ah ouais, c'est fou.
Non, je déconne, faut pas le choper. Ouais. Mais voilà, c'est une grosse contrainte, ouais. Mais bon, l'école, elle est pas fermée. Donc.
Et ça va avec, enfants à la maison pour travailler?
Ah, c'est une espèce de redite du premier confinement, en fait, hein, tout simplement.
Ouais.
Donc, je pense que les gens ont leur marque maintenant, pour s'organiser. Donc voilà. Puis, du côté de Géraldine, son boulot, ils sont super compréhensifs par rapport à ça. Donc, elle peut travailler sans souci en télétravail. Pas de problème. Voilà. Après, c'est juste la popote familiale à gérer.
Ouais, ça doit être de l'organisation. Hein. Faut être flexible. Bah, du coup, est-ce que ça vous dit qu'on débriefe l'épisode de Kylian?
Eh ben, c'est parti.
Allez, rock and roll. À vous la régie. Hein. Moi, voilà, je le connais. Jingle. L'épisode. C'est moi qui l'ai. Je sais que tu aimes mes petits jingles, Laurent.
J'irai pas jusque là, mais ils sont très rigolos.
Vas-y, fais-en un et puis tu te lances.
Ah, c'est à moi de faire le jingle en plus.
Ouais, vas-y.
Exploration, inspiration créative et sens créatif avec Kylian Talin et Jérémy Claes. Alors, c'est vraiment une intro pourrie, hein, encore un jingle.
Ouais, je sais pas si c'est mieux que moi, hein, vraiment, en fait.
Non,
hein,
c'est pas mieux, mais j'ai fait avec mon cœur.
Ouais. Alors, c'est l'essentiel. Toujours écouter son cœur.
Oui, bien sûr. Je vais démarrer avec un truc, tu vas être scotché, mais moi j'ai adoré ton intro, Jérémy. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fumé?
Mon intro, où je dis que je suis en top form et compagnie.
Ouais. c'est quoi ton secret? Ça m'a bien fait rigoler, et du coup, enfin, j'étais déjà dans le ton de l'épisode, et je trouve que à partir des toutes premières secondes où tu racontes ça, l'épisode il est sur la même énergie de bout en bout. C'est assez incroyable. Il y a quelqu'un qui l'a dit sur le Discord, vous vous êtes bien trouvé. C'est vrai. On sent la connexion entre toi et Kylian dès le début.
Ouais, une synergie, ouais.
Exactement, c'est ça. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui tous ensemble, c'est l'exploration. Qu'est-ce que c'est le fait d'être explorateur? Et on reviendra aussi sur la dichotomie, mais en même temps, c'est un bidon dont parlait Kylian, c'est être aventurier. Et à la fois bibliothèque, est-ce qu'on peut être les deux? Est-ce qu'on peut être l'un ou l'autre, etc. Tout ça, on pourra le développer ensemble. Voilà, oui, alors c'est un épisode qui est particulier pour les auditeurs habituels de Sens Créatif, parce que ce n'est pas un illustrateur. C'est pas un artiste.
Ouais, créatif visuel, ouais. Enfin, quoi que si, il fait des vidéos.
Voilà, exactement. En fait, j'allais venir. En fait, c'est quand même un artiste, c'est quand même un créateur. Et on va explorer un petit peu ce... Ah, c'est pas... J'ai pas fait exprès, mais on va explorer un petit peu cette approche-là et le fait que Kylian aille dans un sens et que toi, Jérémy, tu ailles dans l'autre sens et que vous vous retrouvez à la croisée d'un chemin et que vous décidez de prendre le chemin ensemble.
Comment ça, l'autre sens? Enfin, j'ai l'impression qu'on est plus sur des chemins parallèles, en fait.
Ah non, pas du tout, puisqu'en fait, lui, il vient... Et là, tu vas voir pourquoi je
Ah non.
Tu vas voir. En fait, toi, tu viens purement de la création, d'accord? C'est ouais. Ça, au départ, tu ne pensais pas faire autre chose que créer et faire des dessins. Tu
vois, c'est
dessinateur,
ça.
Exactement. Ah. Même dessinateur de BD et dessinateur de pochettes de musique.
Oh là là, il a bien suivi, hein, le gars.
Alors que... Du côté de Kylian, lui, il s'est adressé en premier lieu à des entrepreneurs. Voilà, c'est ce qui l'intéressait. C'était vraiment accompagner des gens pour créer en fait des projets. Et le fait que lui, il vient du monde justement en fait de l'entrepreneuriat et il se sent beaucoup plus créateur. Et que toi, tu es créateur et tu te dis, ah bah oui, non, en fait, ce que je fais, c'est de l'entrepreneuriat. J'entreprends en fait des choses. Et c'est ces deux chemins en fait qui.
Oui.
Voilà, qui se rejoignent, et voilà, c'est ça qui est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment le truc qui vous lie, c'est ça. Voilà.
Ouais, c'est vrai. Ouais. La raison pour laquelle j'ai demandé à Thibaut de nous rejoindre, c'est parce que toi, Thibaut, tu fais partie du cercle des créateurs, donc t'as un vrai regard de quelqu'un qui connaît les coulisses de ce dont on a discuté avec Kylian. Donc, je te passe le mic. Enfin, on peut continuer évidemment de débriefer l'épisode avec Kylian, mais c'était aussi pour donner le contexte aux auditeurs. Pourquoi est-ce que Thibaut fait partie notamment de la conversation, outre le fait que j'aime beaucoup discuter avec toi, Thibaut, bien sûr. Mais il y a le fait que voilà, tu t'es à l'intérieur du truc, quoi.
Ouais, bah oui, effectivement, moi je fais partie du cercle et c'est assez drôle parce que j'ai rejoint le cercle un peu par, alors je vais pas dire par hasard, mais en gros ça a été plus une espèce d'opportunité. Je connaissais pas très bien Kylian, j'étais abonné à sa newsletter et un jour je parlais avec Francis, encore lui, de collaborer. J'étais là, tiens, moi j'en ai marre d'être tout seul dans mon coin et j'aimerais bien collaborer avec des gens, et ce serait cool qu'il y ait un espèce d'espace comme ça où les gens disent, bah voilà, moi j'aimerais bien t'aider sur un truc, etc., etc. Et Francis me dit, ah ouais, effectivement, faudrait qu'on y réfléchisse. Et je vous mens pas, deux jours après, j'avais un truc de Kylian, genre, je vais bientôt lancer un truc qui s'appelle le Cercle des Créateurs. Ce sera plein de créatifs réunis ensemble pour faire des trucs. J'étais là, bon, bah là, si je signe pas, c'est vraiment que je me moque du monde. Donc je me suis inscrit un peu... parce que le concept me plaisait, mais sans vraiment connaître le Kylian outre, enfin à part ses newsletters, quoi. Et du coup, quand j'ai entendu cet épisode, tout a d'un seul coup pris sens parce que j'ai compris, enfin j'ai découvert vraiment où Kylian voulait aller, d'où il venait, comment il prévoyait de le faire, et tout ce qu'il a décrit, enfin en tout cas la partie qu'il avait envie d'aider les créateurs à produire, inspirer, promouvoir et s'organiser et tout. Toutes ces petites briques-là arrivent d'une manière ou d'une autre dans le cercle. Alors après, je sais pas si vous voulez que je vous fasse une description de ce qui se passe exactement,
ouais,
dans le cercle.
Dis-nous tout, Thibaut. Dis-nous comment ça marche dans le cercle. C'est notre okay, taupe.
Je suis la taupe. Oui, mais maintenant que Kylian fait partie du Patate Club.
Voilà, donc si ce que vous venez d'entendre vous a plu, rendez-vous sur patreon.com/sens-creatif-podcast pour écouter la suite. À bientôt sur le Patate Club. Bye bye.